Bah, le Serga a le plaisir d'accueillir Christophe Alain. Christophe, moi, je l'ai rencontré il y a 2 ans dans un stage dans la Saône-et-Loire. C'était un stage sur les élémentaux de la nature. Donc on a fait connaissance et puis après j'ai vu son blog, puis il a avancé à toute vitesse. Donc c'était intéressant, j'ai trouvé que c'était, ça serait bien qu'il vienne ce soir nous parler de son expérience concrète, comme il dit, autodidacte de la voie spirituelle. Et puis, il a découvert des tas de choses et il va nous les faire partager. Alors, je voulais aussi vous parler du programme du Serga. Vous avez pu voir sur la table là-bas qu'il y a 3 autres conférences qui sont programmées. Une conférence le 23 février avec Marie-Pascale Rémy sur les énergies du printemps. Une conférence le 31 mars avec Denis Marquet, qui est un philosophe qui a écrit un certain nombre de livres, dont son premier livre, c'était un des premiers livres sur le cri de la terre, l'exploitation de la terre, ça s'appelle Colère. Et il viendra surtout nous parler de son dernier livre, qui est Éléments de philosophie angélique. Le monde, au sens d'ange, mais autant au sens de bonne nouvelle. La dernière fois, il aura lieu au mois de mai, je ne sais pas, 3 mai peut-être, avec Charles-Raphaël Payeur qui va nous parler de techniques de protection traditionnelle, techniques de protection du négatif. Voilà. Et puis, je voulais aussi vous dire que la conférence d'aujourd'hui va être enregistrée. Donc, les personnes qui souhaiteraient avoir l'enregistrement laisseront leur adresse email au fond. Après, je vais la mettre sur un site internet où vous pourrez la télécharger sur le site internet directement. Dernier point, je te laisse la parole. À titre personnel, donc c'est plus le Serga, je fais venir des gens le 11, 12, 13 février sur le Merkava. Donc les personnes qui sont intéressées pourront avoir des renseignements tout à l'heure. Voilà, je laisse la parole à Christophe.
Bonjour, donc Christophe Alain. Donc c'est ma première conférence. Hein, donc voilà. Disons que j'ai vécu une expérience de montée de Kundalini assez importante quand j'avais la vingtaine. J'ai utilisé mes perceptions pour évoluer, pour comprendre un peu le sens du monde et puis comprendre le sens de l'humain, qui est plutôt en fait ce que je cherche. Je vais essayer de vous présenter succinctement quelques points. Alors, il y a des gens qui connaissent peut-être mon blog, hein, dans lequel j'ai détaillé un petit peu toutes mes expériences au jour le jour, telles que vécues, avec mes perceptions. Donc, dans un premier temps, je vais quand même réexpliquer un petit peu comment s'est passé cet éveil de Kundalini et comment s'est transformée ma perception du monde. Peut-être essayer de comprendre comment je perçois le monde à l'heure actuelle, qui n'est pas du tout une manière à mettre en faire de défense. Hein, c'est plutôt. Voilà. Ensuite, j'aimerais parler de l'humain. Donc, comprendre quel est le sens de l'humain, qu'est-ce qu'il a à faire dans l'univers, quel est son rôle, quelle est sa place, comment est-ce qu'il évolue, et qu'est-ce qu'il fait avant, qu'est-ce qu'il fait après. Et on va parler de vie et de mort, de féminin, de masculin, de centre, de travail sur le haut, travail sur le bas, travail sur le cœur. On va parler un peu de tout ça. Mais bon, j'utilise ma clairaudience, donc. Donc c'est des informations que j'ai moi, je vais essayer de ressortir sous le même angle qui est le mien. On est dans un monde relatif, les vérités sont toutes relatives. Donc j'expliquerai après quel est le sens de l'humain. Voilà. Et en dernier, j'aimerais aussi parler donc, des énergies actuelles, le fonctionnement du monde à l'heure actuelle, comment est-ce qu'il est en train de se transformer, et quelles sont les clés en fait, pour passer d'une énergie à une autre, tout simplement. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix, on va dire, parce que ça se passe. Mais comment est-ce qu'on peut, à la rigueur, essayer de vivre bien, voilà. Et puis, d'accompagner une transformation qui est collective, de toute façon, et qui va se faire sur un certain temps, quand même. Voilà, je vais essayer de rester dans des délais raisonnables sur ces 3 points. Voilà. Et après, éventuellement, si des gens ont des questions, je m'entendrai. Voilà, donc, pour commencer, j'avais qu'un éveil de Kundalini vers les 25 ans, ça devait être dans ces eaux-là. Au départ, j'ai une éducation athée, hein, donc pour moi, il n'y a ni Dieu ni rien. Il y a la matière, les études, le boulot, la retraite, et point. Voilà, ça se passe comme ça. dans ma famille, c'est comme ça. Donc c'est mon éducation. Donc quand je finissais mes études, et puis j'ai pas trop envie d'entrer dans la vie. Donc j'étais un peu déprimé, alors je méditais. Voilà. Donc je méditais bêtement, je faisais un pas au plafond, puis je regardais, et je laissais passer les pensées. Voilà. Puis la première méditation, je me suis aperçu que je restais 4 heures, ça ne me posait aucun problème. Donc le soir je montais à 8 heures dans ma chambre, j'avais le radio réveil à côté, c'était 20 heures. Je faisais mon truc, puis je passais par plein d'étapes, je laissais faire. Vers midi, généralement j'en pouvais plus, puis j'étais passé un petit peu dans des états un peu différents. Donc je m'en ai arrêté là. J'ai fait ça pendant 6 mois. Qu'est-ce qui se passe? C'est très vite le corps disparaît. On a une sensation d'accélération très puissante, hein, une logique de voyage astral, mais pour moi, il y a toujours quand même une logique d'être à plusieurs endroits en même temps qui est constante. Chez moi, qui a toujours été comme ça. Si je suis là, en même temps, je suis en train de foncer ailleurs, puis en même temps, je perçois autre chose. Mais c'est pas grave, ça a toujours été un peu ça. Après, il y a plein de choses, des effets visuels, il y a des trucs qui passent. Puis un moment, on rentre dans un rêve éveillé. Parce qu'en fait, l'idée pour moi, c'était d'aller à la frontière du sommeil juste pour voir ce qui se passait. Et comme je pouvais le faire, je ne sais toujours pas pourquoi, j'y allais. Quoi. Et en fait, on arrive à une frontière très précise où d'un coup, le monde où on est se transforme. C'est-à-dire que d'un coup, les échelles s'envolent, et puis on fait un petit mouvement, et paf, on revient dans le monde où on était juste avant. Sauf qu'il n'y a aucune différence, parce que on est tellement dans la transition qu'on est dans ce rêve comme on le sait. Il n'y a vraiment aucune différence qui se fait. C'est juste d'un coup, il y a un truc incohérent qui se passe, donc on va dire, là je suis rentré dans le rêve, je ne suis plus dans... Voilà, donc j'ai fait ça pendant 6 mois, hein, quand même. Hein. Simplement parce que c'était trippant, hein, tout simplement, c'était agréable. Hein. Je faisais ça, puis je réfléchissais plus, ça se passait. Et un jour, d'un coup, une explosion d'éclair, quoi, je me retrouve... je décris ça le plus simplement possible, c'est comme si d'un coup, plein de fils électriques se manchaient dans tous les sens. C'est que vous n'êtes plus un corps, vous êtes un tas de fils électriques. Mais sauf qu'il y en a une infinité, enfin, c'est très difficile à dire. Et puis, le lendemain, on se lève, et puis on n'est plus dans le film, quoi. On regarde le film, un petit peu de l'extérieur. C'est le corps, il est là, mais ça dépasse dans tous les sens. On n'est plus que dans un océan d'énergie. Pourtant, la matière est bien là. Et en même temps, ce qui se passe se fait sur plusieurs niveaux. Il y a cette perception d'énergie qui est constante, qui est incompréhensible. C'est un océan avec des courants, avec plein de choses sur lesquelles on ne peut pas mettre de mots. Et en même temps, le monde se transforme physiquement. C'est-à-dire que d'un coup, les couleurs deviennent beaucoup plus puissantes. Quand je dis puissant, c'est le mot exact. Hein. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imaginer que ça puisse exister dans notre monde d'avant. D'un coup, les couleurs sont démultipliées. C'est vraiment une perception. On est au paradis, quoi. Les contrastes deviennent tellement puissants que vraiment, on sort dans la rue comme ça, quoi, à regarder le monde. Et comme ça, il m'a fallu un an, hein, pour intégrer ça, que mon mental arrête de disjoncter en comparant les images. Parce que j'allais dans les rues, des endroits que j'étais allé pendant 10 ans, quoi. Tout reflétait le divin dans tous les sens, mais c'était simplement qu'il y avait eu un nettoyage des perceptions à la fois émotionnelles et mentales, donc dans le contraste et dans la couleur. Et d'un coup, le monde prenait une dimension différente. Bon, avec plein de choses incompréhensibles. Puis je croisais. Alors, moi, j'ai toujours un petit problème d'identité au départ, j'ai un fond autiste en fait, hein, qui a été très compensé. Donc en fait, je croisais les gens, je devenais les gens. Ça, c'était assez amusant. Mais bon, ça ne posait pas trop de problèmes. Mais vous êtes un tas d'énergie, puis vous croisez quelqu'un, vous devenez un autre tas d'énergie différent. Et puis, qu'est-ce qu'on y comprend? Rien, au départ, absolument rien. Il y a trop d'informations, il y a trop de choses. De toute façon, c'est pas clair. On est dans une mélasse d'énergie. Donc, il m'a fallu longtemps pour comprendre qu'en fait, le problème, c'est que je percevais plein de dimensions en même temps. Et que je percevais trop. C'est-à-dire que, parce que je comprenais pas le rapprochement qu'il y avait entre toute cette énergie, ces perceptions, ce que racontaient les gens dans les bouquins. Il m'a fallu longtemps pour comprendre que j'étais un petit peu trop en train de regarder en haut, qu'il fallait redescendre en bas si je voulais voir. À des moments, par exemple, moi je percevais l'infini par l'avant et l'arrière. Il y avait tout un univers de des chakras. Je les cherche, hein, ils ne sont pas. Alors qu'en fait, si on redescend en trois dimensions, effectivement, il y a des chakras. Voire en quatre, en cinq, plus de bois. Donc c'est une perception du monde qui se fait normalement dans la matière. Tous les cinq sens sont dans l'énergétique en plus. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le goût, il y a la. Pour l'odorat, je l'ai très peu, mais de temps en temps, la vue. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous êtes là, puis il y a tout un océan d'énergie au milieu, y compris l'air entre nous qui est rempli d'énergie, en fait. Il y a l'audition, sans arrêt, une cascade d'énergie. Puis dès qu'il y a un truc qui rentre dans la pièce, finalement, il y a un pic d'énergie. un truc, un esprit, une chose, bon, ça j'irai un peu plus loin là-dessus, ou qu'il y a une opération énergétique qui se passe dans un centre, paf, il y a un pic, donc on sait qu'il se passe quelque chose. Et le plus puissant pour moi, c'est le toucher, ça reste le toucher qui est vraiment très très puissant, c'est-à-dire qu'en fait, je deviens les choses. Notre sens du toucher nous fait un clin, nous fait pas retourner le corps. Mais qu'est-ce qui fait qu'on croit qu'on est le corps? C'est parce qu'on sent le corps. Qu'est-ce qui se passe si d'un coup je croise la table et je deviens la table? Bon, voilà, il y a un peu cette idée. Donc il y avait chez moi une logique à ce moment-là de désincarnation très puissante. Vraiment, désincarnation, c'est le mot. Hein, c'est, bon, on est en train de regarder le film, on n'est plus dans le film. Et voilà, et en même temps, tout ça. Donc au départ, c'était totalement ingérable, hein, parce que, donc en plus pour moi, dans mon éducation, ça ne pouvait pas exister. Mais en même temps, une expérience comme ça qui est constante, je veux dire, à la rigueur, si c'était temporaire, j'aurais oublié. Hein. Et tous les matins, je me levais, je dis, j'entends, regarde dans le monde. Surtout dans mes rêves, le monde était resté comme avant. C'est assez amusant. Donc j'avais, dans mes rêves, c'était normal, puis je me réveillais, c'était délirant, quoi. Et toute cette énergie, puis voilà, donc je ne pouvais pas nier l'expérience. Donc d'abord, je suis allé voir un psy, puisque pour moi, dans mon éducation, on est fou, on perçoit comme ça. Voilà, bon, bah. Donc j'ai fait plusieurs séances, hein, il n'a pas réussi à diagnostiquer mon problème, qui était un problème de désincarnation en fait, hein, mais je pense que le psy aurait du mal à le trouver. Donc en fait, pour lui, j'avais peut-être mis problème psychotique et autre chose, puisque j'étais cohérent dans mes propos et ainsi de suite. Bon, bah, j'ai dit, allez, on va chercher. Voilà. Donc ça, c'était il y a pas mal d'années, 15 ans. Donc quand on rentre dans un monde comme ça, c'est vraiment ça, on change de monde. Hein, on s'aperçoit que le monde qu'on voit n'est bien évidemment qu'une illusion. Hein, et qu'en fait, on change l'illusion. Donc là, on ne peut plus le nier. Je suis passé d'un état à un autre. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Tout mon travail, vu que j'avais que des bases en psychologie, déjà mental assez costaud, heureusement, pour moi. Oui, je parle trop vite, peut-être aussi. C'est bon, d'accord. Heureusement, pour moi, j'ai un mental assez costaud, donc qui peut intégrer ses perceptions. Ça, je reviendrai après quand j'expliquerai l'humain, l'intérêt du mental. Et donc, j'ai réussi à peu près à fonctionner avec. Mais au départ, je ne voulais pas savoir ce qu'il y avait. Hein. Je traversais la foule, c'était l'horreur, quoi. Genre, ben, c'est des merdes dans tous les sens. Bon, c'était agréable, hein, parce que devenir un peu tous les gens, c'est très intéressant de voir un peu l'expérience des autres. Bon, on rentre pas vraiment dedans, mais on devient un peu comme eux, juste pour voir. Donc, c'était très intéressant. Il y avait beaucoup d'ouverture, mais en même temps, beaucoup de peur, parce qu'on ramasse plein de choses, plein de peurs des autres, plein de trucs comme ça. C'était quand même très difficile à vivre, hein, ça, il faut. Puis après un passage en foule, je pouvais aller dormir pendant 2 heures pour intégrer tout ça. Il y avait aussi une idée, les gens y parlaient, puis moi je voyais leur structure mentale. Alors c'est toujours le cas, mais maintenant ça va plus loin, mais on ne la voit pas, hein, c'est la personne parle et tout est là, quoi. Voilà, elle est structurée comme ça, ça vient du père, le grand-père, le machin, et voilà, on voit l'armure mentale, l'armure émotionnelle, qui est tangible, qui se touche, hein, la personne est là, peut être crâne à 3-4 mètres, pas vous, moi, je suis pas sûr, je fais comme ça, voilà, c'est l'idée, je suis en train de regarder dans l'émotionnel de quelqu'un, c'est une horreur. Bon, parce qu'on a, je regarderai après comment ça marche aussi. Et dessus, l'armure mentale, là, qui est la bonne qu'aux 4 minutes autour. Et voilà, bon, avoir tout ça chez les autres. Puis en même temps, bon, du coup, avoir du mal à avoir une identité. Parce que je croise quelqu'un et puis je comprends, puisque je rentre dans sa structure. Ah ben, il a raison, dans son monde, tout ce qu'il dit est vrai. Puis l'autre aussi. Ah ben, ils disent des choses contradictoires, sauf qu'ils ont raison tous les deux. Comment je fais? C'est peut-être qu'à un moment, bah, ils sont dans leur monde, chacun. Et que c'est pas le même que l'autre, bah, forcément. Hein. Celui qui est au centre de chaque monde, c'est peut-être le même. Et en fin de compte, il a toujours raison dans la structure par laquelle il regarde le monde. Donc voilà, donc une logique de vérité relative dans le monde où on est, à cause de ça en tout cas. Voilà, donc au départ, donc, j'ai travaillé que la psychologie. Au début, je voyais bouger le mental, et puis j'avais un ami. Donc j'avais la chance d'avoir un ami qui avait des perceptions, pas aussi puissantes, mais... disons qu'il y avait au moins le toucher énergétique, et surtout une capacité de clairaudience assez correcte, on va dire, à cette époque-là. Donc c'était pratique, hein, parce qu'il tirait les runes, et puis il avait les infos. Alors généralement, il tirait 3 fois la même rune, mais l'info, c'était pas la même. Hein. Sauf que c'était la bonne info, quoi. Il était assez bon pour ça. Quoi. Et donc, on a commencé à travailler sur le mental, sur l'émotionnel, puisque moi, je voyais toutes les peurs des autres. Et l'information qui était très claire pour moi à ce moment, c'est si je vois des peurs, c'est que c'est moi qui ai peur, en fait. Donc c'est, au lieu de regarder les autres et dire qu'est-ce que c'est ce monde cauchemardesque où tout le monde ment, où les gens disent des choses, leur énergie dit autre chose, ou bon, si à la place, j'inversais un peu ma perception, parce que c'était vraiment l'information était claire pour moi en ce moment. C'est moi qui ai peur, c'est pas eux. Et c'est moi qui ai un problème, c'est pas l'extérieur. Donc je vais travailler là, je vais pas travailler à l'extérieur. Donc c'est parti là-dessus. Et qu'un travail sur le mental et sur l'émotionnel, hein, au départ, ça a duré 10 ans. Que ça, travail sur le mental et l'émotionnel, par toutes les manières qu'on trouvait. Parce que, alors au départ, bon, je décris dans le livre, hein, tout ce qu'on a fait, hein, bon, je ne vais pas forcément revenir dessus, mais vu qu'on voyait les structures mentales tous les deux, c'était facile. Moi, je travaillais sur lui, je voyais le moment où ça devenait incohérent, et on essayait de faire bouger ces structures-là. Mais je me suis aperçu très vite que je fonctionnais en négatif, c'est-à-dire que moi, je dis les mots qui font mal aux gens, au départ. Donc, je désinguais la structure du gars, et puis, bon, le gars, il faisait sa crise d'hystérie, ça ne sert à rien. Donc j'ai appris au départ à me taire. Et en plus de ça, je ne voyais pas comment aider les autres et comment m'aider. Voilà, donc ça a été ce travail comme ça. À un moment, dans cet océan d'énergie, à force de travailler quand même, à enlever des structures, des peurs, des machins, je commençais à apercevoir que quand même, il y avait des choses qui passaient. Hein. Il y avait des tubes qui se connectaient, puis on ramassait 2 tonnes d'énergie dans la tête, et après j'avais des informations qui venaient. Donc ça a été long jusqu'à ce que je dise, j'accepte de dire que ce gros tas d'énergie qui passe, c'est quelque chose qui est conscient, et puis je vais peut-être discuter avec. Et ça va être, voilà, il m'a fallu au moins 10 ans pour dire j'accepte cette expérience en sachant que je vais pouvoir l'intégrer, pas devenir d'un coup. Parce que quand vous percevez votre corps, il n'est pas en 3 dimensions à ces niveaux-là. C'est-à-dire qu'en fait, votre corps, c'est le temple. Hein. Il est là. Donc en fait, un esprit, lui, vous visite. C'est très intime, hein, quand même. Des trucs qui vous traversent. Quand vous avez des perceptions du toucher puissantes à ce niveau-là, ça peut être désagréable. Et ça peut être très sympa aussi. Hein. Bon, l'esprit très sympa aussi. Donc j'ai franchi ce cap d'accepter cette notion d'esprit à un moment donné, d'accepter qu'en fait, non seulement le monde est un tas d'énergie, mais en plus un tas d'énergie consciente et intelligente. Et en plus, un tas de consciences imbriquées les unes dans les autres. Donc en fait, on peut percevoir sur plein de niveaux, on peut parler avec des êtres très très élevés, des êtres très bas, que tout le monde a son rôle à jouer, qu'il n'y en a pas un qui n'est pas à sa place, et qu'en fin de compte, la perception qu'on en a en négatif ou en positif ne vient que de nous. C'est-à-dire le gros démon tout méchant qui est là, bah, c'est juste une information. C'est une blessure émotionnelle qui a pris conscience parce qu'on l'a laissé traîner. Et elle est dans le corps émotionnel ou dans le monde astral. Hein, si vous visitez votre corps émotionnel, vous visitez le monde astral. Et en fait, on peut discuter avec elle. Elle a juste une information à délivrer. C'est tout. C'est un pense-bête, quoi. Alors effectivement, si on l'aperçoit en négatif et qu'on sort une épée, elle sort un bouclier. Si on sort un bouclier, elle sort une épée. Il y a cette logique. Mais c'est un cheminement. Voilà, on arrive là. Après, une fois qu'on a dépassé cette perception, voilà, ça peut déjà vous paraître de la science-fiction, hein, mais pour moi, déjà, c'était il y a 15 ans. Donc, une fois qu'on a dépassé un peu ça, il y a un moment, ce tas d'énergie, il dit, bon, tu veux qu'on joue encore longtemps ou... Parce qu'en fait, il n'y en a qu'un avec qui tu parles, mais il prend plein de formes, y compris les gens. En fait, bon, on ne parle qu'avec soi-même. Enfin, c'est un petit peu... Mais bon, d'accord, on va jouer un niveau un peu plus haut. OK. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on commence à percevoir un niveau plus d'énergie. C'est-à-dire qu'il y a un niveau sans forme. Alors ça, c'est très puissant, mais encore plus dur à décrire. C'est-à-dire qu'on perçoit, mais par aucun sens. Et c'est très puissant. C'est des extensions de conscience vraiment très fortes. Et là, vraiment, on perçoit du divin et du non-duel, à un moment. C'est-à-dire que vraiment, on devient l'information, on devient les choses. Hein. On peut pas... Et on est obligé, après, de prendre une distanciation redescendante pour la regarder en relatif. Voilà. Et cette conscience, au départ, elle est quasi invisible. Hein. On ne la voit pas. Parce qu'elle est vide. Bref. Et plus on travaille à nettoyer encore ce niveau énergétique, en fait, c'est soi-même qu'on travaille. Plus le monde devient beau, plus le monde devient divin, plus on voit les choses plus en négatif, on voit ce que c'est. On dit, tiens, l'énergie qui est là-bas, c'est une énergie, en fait, qui sert à ça, c'est tout. Et si je la vois en négatif, c'est que j'ai un problème à résoudre avec ça. Et donc, en fait, à force, on est pur, puis tout devient de plus en plus positif, parce qu'en fin de compte, en réalité, tout est positif. Hein. Et ensuite, on commence à percevoir ce niveau sans forme et cette perception où, à un moment, on se balade dans la forêt, hein, et puis, tiens, je peux devenir la région entière pour voir ce que ça fait. Bon, on se fait un peu. Après, je vais vous cadrer qui c'est qui est en mieux. Voilà, donc ça peut aller très loin. Bon, aujourd'hui, l'avantage, c'est que j'ai une clairaudience très efficace. C'est pas des mots, la clairaudience, hein. C'est le silence qui contient toutes les réponses. En un instant, il y a 20 heures de film. Hein. Voilà, donc on est... Et il y a tellement d'informations à un moment qu'il y a plus de réponses que de questions. Donc, à la fin, bon, y a une espèce d'alignement qui se fait. Bon, ça, j'ai compris, je joue mon rôle humain. J'arrête de vouloir avoir l'information de l'absolu. Voilà, donc ça, c'est pour vous donner une idée de ma perception du monde, hein, qui est très particulière. Il y a une notion de vide aussi, hein, qui est dedans. Plus on redescend, plus on s'incarne, en fait, plus les perceptions augmentent en réalité. Au départ, je croyais que ça allait... Non, bah non. Sauf qu'on commence à percevoir les molécules, le vide entre les molécules. Bon, l'ego, il n'aime pas. Hein. C'est quand on descend au niveau des molécules, on ne se distingue plus du tout de la pièce. Alors là, c'est la panique à bord. Hein. Il y a une réaction de survie instantanée. Hein, je recadrerai ce qui concerne les logiques de survie. Hein. Donc attention, tu remontes, là, on va te perdre. Quoi. Donc là, on remonte. Voilà. Mais en fin de compte, on regarde... Voilà, donc maintenant, je vais recadrer un petit peu l'humain. Dans les expériences que j'en ai faites, du coup, j'en ai profité. J'ai travaillé avec beaucoup de gens, je suis allé sur beaucoup de lieux, puis je travaille sur les gens, je travaille sur moi aussi. C'est l'avantage, c'est ma manière de faire. Il y a une logique de miroir, qui est la logique des énergies actuelles que je détaillerai un peu plus tard, et une logique de travail de groupe qui se fait aujourd'hui. On ne peut plus travailler en individuel. Voilà. Alors, bon, il y a des lieux sacrés intéressants. Hein, les chamans, ils se sont amusés, hein, ils ont fait des choses bon, qui ne sont pas forcément... c'est juste des lieux où on peut percevoir l'univers différemment. C'est intéressant. Donc ils s'intéressaient à des choses quand même plutôt sympas. Puis ils ont fait des constructions vraiment chadées, quoi. C'est pas du petit truc, quoi. C'est les gars, les Stone Age, les machins, les trucs de pierre. Quand on va voir ce qu'il y a en énergétique dans ces choses-là, on trouve des choses très intéressantes. Des portails espace-temps, plein de choses. On peut aller voir plein de choses, en fait, à plein de niveaux. Et ça a été vraiment chiadé. Et entre autres, je me rappelle, donc en Irlande, on est allé voir un cercle de pierre qui est complètement effondré. Il ne reste plus rien, c'est un tertre. Et il y a des cases, et au centre, on est dans la vacuité, donc au nirvana, dans le rien, et chaque case correspond à un règne. Et donc, on peut se mettre dans chaque case, et on ressent ce qu'on peut ramener de ces niveaux. Donc en fait, nous, qu'est-ce qu'on fait? On part de la vacuité, on va dans le minéral, on fait le végétal, l'animal, l'humain, on va dire l'angélique, mais c'est pas vraiment le mot, l'archangélique, le bouddhique, et on retourne dans la vacuité. Donc il y a ce cycle-là. Et c'était marrant sur ce cercle parce qu'on pouvait expérimenter ce que ça fait d'être dans chaque état. En ramenant ce qu'on pouvait, hein, parce qu'en tant qu'humain, on ne ramène pas grand-chose quand même. Hein, mais là, c'est intéressant dans le ressenti, dans l'expérience. Quand je dis le ressenti, ce n'est pas la sensation. C'est dans cette perception sans forme qui est vraiment très puissante. Et donc, en fait, il y a cette logique de comprendre que l'humain, en fait, c'est une expérience qui se situe entre l'animal et l'angélique. Pas les anges au sens où on le temps. Hein. Mais toutes les êtres qui sont perçus au niveau angélique, généralement, les gens en parlent comme si c'était des anges. Ils perçoivent comme des anges. C'est-à-dire qu'il faut vraiment des perceptions puissantes pour faire la différence, parce qu'ils sont à des niveaux très hauts, quoi qu'il arrive. Ils nous dépassent complètement, donc on ne peut pas vraiment les mesurer. Donc si on ne peut pas passer par le centre pour avoir l'information, ce n'est pas évident de distinguer ces niveaux des niveaux des vrais anges et archanges, qui eux restent dans l'absolu et ne descendent jamais dans le relatif. Mais on peut les percevoir si on ouvre la perception du monde spirituel. Donc je vais essayer, il y a beaucoup d'informations, hein, mais j'essaie de rester au plus simple, même si c'est pas si évident que ça. Donc l'humain est séparé en deux, jour, nuit, mort, vie, hein, toujours, on est duel. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien on a une part qui se tient dans la mort, et une part qui se tient dans la vie, et on le fait en même temps. C'est-à-dire qu'on est mort et vivant en même temps. Hein. Oula. Donc en fait on a une part qui se tient dans le monde spirituel, qui est un monde infini, dans lequel il ne peut pas y avoir de forme, mais par contre il y a des concepts. Donc, quand on vit dans le monde spirituel, on crée des idées à partir de la vacuité, et ensuite on s'incarne pour aller vivre les idées qu'on a créées, dans la matière. C'est ce qui se passe en fait pour l'humain. Donc l'humain est séparé en deux, il a une part relative ici, et une part absolue qui se tient dans le monde spirituel. Je dis en haut parce que la connexion généralement elle est plutôt là, vers le haut, et la connexion à la terre elle est en bas. Pulsion de mort, pulsion de vie, monde spirituel, monde matériel, et on fait des allers-retours sans arrêt entre les deux. Donc il y a une logique chez l'humain de se réconcilier, parce qu'en fait ce qui se passe un petit peu c'est qu'on fait un peu la gueule à cette part absolue, hein, au départ, parce que c'est la notion de divin, elle va nous ramener à notre part absolue, à nous, notre part omnipotente. Donc on peut le vivre dans plein de structures religieuses ou autres, mais en fin de compte on trouvera toujours une logique qui est très humaine, c'est de comparer le père divin, donc la connexion au monde, enfin, donc, la part absolue, avec le père humain, à savoir oh, il est méchant, il crie très fort. C'est le dogme. Oui, non. Tu fais bien, ça va, tu fais pas bien, je te foudroie. C'est la perception qu'on en a. En fait, la part absolue ne fonctionne pas comme ça. Elle est en attente de nos choix. Parce qu'en fait, l'humain ne peut pas fonctionner. Pour que notre expérience fonctionne, on est obligé d'avoir une part absolue, une part relative. La part relative a pour seul rôle de faire des choix et de les vivre. Point à la ligne. Tout le reste, c'est pas elle de le faire. Et il y a une part absolue qui est là pour exaucer tous ses choix. Donc, ce qui se passe entre le niveau animal et le niveau angélique, c'est que quand on parle d'animal, l'animal n'a pas d'âme individuelle. Il n'a pas la même expérience. elle est plus collective, son expérience. L'humain, lui, vit vraiment l'individu, l'identité. L'intérêt de l'humain, c'est que chacun est différent. Mais vraiment, hein, c'est, on ne peut pas s'apercevoir à quel point c'est si on n'a pas commencé à regarder l'énergie des gens à des niveaux dimensionnels plus hauts. C'est, vous ne pouvez pas imaginer à quel point il y a des différences entre deux humains. Et pourquoi ? Ben parce que l'expérience doit être unique à chaque fois. Tout simplement. Donc chacun est différent, vraiment. Et le chemin de chacun est forcément différent, parce que c'est ça l'intérêt. On parle de la vacuité, on y retourne. Ce qui est intéressant, c'est le chemin. Donc vraiment, le chemin est différent pour chacun. Donc la vérité est différente pour chacun. Mais en fin de compte, tout le monde arrive à la destination. Hein. Qu'est-ce qu'on fait au départ ? On part du niveau animal, mais on n'a pas conscience qu'on a le choix. Donc de notre libre arbitre. Et aujourd'hui, on est en train de tout doucement de sortir de ce niveau-là. C'est-à-dire, on commence à rallier. On est plus des chimpanzés pensants, alors sans péjoratif, hein, aujourd'hui. Et d'un coup, on commence à accéder à des niveaux où on s'aperçoit qu'en fin de compte, c'est nos choix qui se manifestent. C'est-à-dire qu'on va commencer doucement à prendre conscience de notre libre arbitre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a, mais il est inconscient. Donc, il ne sert pas à grand-chose. Hein. C'est, on vit les choses, on les subit. Pourquoi ? Parce que l'expérience est aussi intéressante. Hein. C'est-à-dire que je suis dans un monde que je crée de toutes pièces avec une part plus haut, dans mon inconscient et dans mon subconscient, si vous préférez, pour le dire de manière plus compréhensible. Et comme je ne sais pas ce que je vais me servir aujourd'hui, je viens en découvrant. Et ça peut être n'importe quoi sur toutes les expériences. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà. Dans un moment, il y a prise de conscience de est-ce que ce qui se passe, ce n'est pas moi qui le crée. Et doucement, on ouvre cette conscience qui s'étend dans l'inconscient, dans le subconscient, ce que je vous décris. Donc d'abord dans l'énergie, dans le duel, le niveau du troisième œil en fait, hein. Le niveau des magiciens, des sorciers, qu'est-ce qu'ils font ? Ils manipulent ces énergies-là. Hein, on le voit sur soi, on le voit sur les autres. On manipule sur soi, on peut manipuler sur les autres. Si on se positionne en bourreau, on appelle des victimes. Hein. Le sorcier, qu'est-ce qu'il fait ? Il se tire sur lui-même, hein, en fin de compte. Mais il appelle une expérience où il dit, ben voilà, moi je vais jouer au bourreau, s'il y en a qui sont motivés pour s'en prendre plein la gueule, vous venez me voir, en gros. Mais c'est un petit peu ce qui se passe, hein, en fait, tout simplement. Le guérisseur fait l'expérience inverse, ainsi de suite. Voilà. Donc quand on prend conscience de ces choix-là, on chemine doucement, pour commencer à prendre en main son libre arbitre, parce qu'il faut d'abord le vivre. C'est dire, effectivement, je fais ce choix, il se manifeste. C'est vraiment ce que je voulais, ça arrive. Et j'ai besoin de ça, ça apparaît dans le monde. Et ensuite, il y a toute une évolution qui consiste à y renoncer petit à petit. Pourquoi ? Parce que, attends, mais moi je suis con, je fais que des choix débiles. Attends, il sait tout. Bah tiens, ça je te laisse le gérer. C'est trop dur pour moi. Donc l'ego, le principe de survie, qui prenait toutes les décisions, il dit, bah tiens, ça je le lâche, je laisse faire la part divine essai. Moi je suis con, je ne sais pas. Donc, bof, et puis ça continue, plus le cheminement se fait. Et à un moment, il y a un renoncement libre arbitre et monté. Mais ça se fait dans très très long terme. Voilà, et dans ce cheminement de l'humain, il y a une logique, je traverse des mondes émotionnels, donc je me visite moi-même, hein, toujours, hein, c'est cette idée. Donc je traverse des mondes émotionnels où c'est très basique, il y a de la violence, pourquoi ? Parce que j'ai un désir, je veux l'exaucer. L'autre, il a un objet, je le veux, je lui mets mon os sur la tête et puis je récupère l'objet. Je suis dans un monde émotionnel. On pourrait appeler ça des mondes démoniaques, hein, presque, hein, pour nous, de notre perception à nous, par rapport à notre expérience relative. Parce que c'est toujours très relatif, les choses. Ensuite, il y a des mondes mentaux. Nous, on est en plein dans un monde mental. C'est-à-dire qu'on vit dans des constructions mentales. On fait des institutions, on fait des pays, on fait... Tout ça, c'est des égrégores, c'est des constructions mentales, et on enferme l'émotionnel là-dedans. Et là, on est en train d'arriver au paroxysme de l'expérience. On est tous des cocottes minutes prêtes à exploser, en gros. Si on n'a que du mental qui essaie de contrôler de l'émotionnel tout le temps. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le mental ? Il y a aussi une évolution quand même, hein, par rapport à l'émotionnel. C'est maintenant, le gars, il a un truc qui me plaît, je vais aller discuter avec lui, on va échanger. Tiens, il y a l'argent qui apparaît. Qu'est-ce que c'est l'argent ? C'est une manière de communiquer. On est passé dans un monde mental. Donc maintenant, on peut passer autrement qu'en fonctionnement basiquement émotionnel. Je ne suis plus obligé de taper sur la tête de l'autre. Je peux négocier avec lui, je peux discuter avec lui. Il a un truc qui m'intéresse, j'ai un truc qui l'intéresse. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On va commencer à connecter le monde émotionnel, spirituel. Le problème du monde spirituel, c'est que ça veut dire qu'on commence à prendre conscience de notre libre arbitre parce qu'on connecte la part qui se tient dans la mort, en fait. D'accord ? Donc la part absolue. Et cette part-là, disons qu'on peut la connecter que dans le cœur. Il n'y a que le cœur qui peut réussir à intégrer l'infini, le fini dans la même expérience. Alors ça, c'est du vécu. Hein. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe à un moment ? On perçoit le monde, il y a la forme de la personne et pourtant c'est l'univers entier. C'est un peu comme si vous regardez les nombres de 1 à 10, c'est vraiment le meilleur exemple que je peux vous dire pour expliquer la perception. Et pourtant, entre 2 et 3, il y a une infinité de nombres. Et pourtant, je peux, moi, faire une mise au point sur 1 à 10, pour dire, je fais semblant qu'il y a une forme, quand même. Je sais que le gars, c'est l'univers entier déguisé en quelque chose, mais j'accepte de regarder cette forme et de jouer avec cette forme, en sachant que j'ai une part plus haute qui gère le reste, même si je le perçois. Hein, c'est un peu tordu ce que je vous dis, mais dans le vécu, ça donne ça. Hein, ça donne ça, vraiment. Voilà. Donc il y a cette union qui va se faire, on va connecter le monde spirituel, qui marche très différemment du monde mental. Il ne fonctionne que dans l'instant présent. Pourquoi ? Parce que le temps est notre création aussi. Alors ça va être un peu compliqué, mais je passe rapidement en fait sur beaucoup de choses et je donne beaucoup d'informations, mais je ne vois pas d'autres solutions, hein, a priori par rapport à mon expérience. Donc il y a une logique d'évolution en spirale dans le temps. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il y a des saisons de l'univers. Comme des saisons, c'est tout est pareil, hein, de toute façon, comme les saisons. Donc vous avez le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Là on est à la fin de l'hiver, donc de l'obscurantisme. À quoi sert l'hiver ? Il sert à rentrer chez soi, se mettre bien au chaud et chercher la chaleur en soi. Les périodes obscurantistes servent à chercher l'amour en soi, l'étincelle, en nous. Parce qu'à l'extérieur, ben, il n'y en a pas beaucoup. C'est fait exprès. C'est pour qu'on aille le chercher à l'intérieur. Donc on vit cette expérience en cycle. Donc là, on est en fin de cycle. On finit l'hiver, donc la neige fond. Qu'est-ce que c'est la neige ? C'est l'obscurité. C'est une construction de lumière. C'est ce qui nous cache notre vraie nature et ce qui nous cache les informations pour qu'on puisse vivre cette expérience. Ça commence à fondre, ça fait que les karmas se barrent en masse. Ça fait que les gens, ben, ils ont des perceptions qui s'ouvrent, ils commencent à pouvoir travailler sur eux très facilement. Il y a 10 ans, on ne travaillait pas sur soi comme on travaille maintenant. Il y a 10 ans, il fallait bosser la journée entière pour faire péter une petite structure mentale à 2 balles. Aujourd'hui, vous allez sur un lieu, il y a tellement de choses qui sautent que c'est incomparable. Vous baignez. Mais en même temps, vous voyez bien que le temps est accéléré. Hein, c'est aujourd'hui, en 3 ans, on en a marre de l'entreprise, hein, même moins que ça. Alors qu'il y a une centaine d'années, ou 300 ans, ben, nos ancêtres, ils pouvaient tourner des boulons chez Ford toute leur vie. Hein. C'était pas un problème. Ils n'étaient pas en temps accéléré. Nous, on se lasse de tout très vite, parce que ça va trop vite. Il suffit de regarder aussi la technologie et tout ça. Le temps est vraiment accéléré, parce qu'on est en fin de cycle. On accélère, on va remonter au-dessus, puis on va refaire un tour, sous une forme différente. Hein. Pour moi, la transition se fait sur au moins 300 ans, a priori, dans l'idée. C'est-à-dire que d'abord, l'intérieur se transforme, et ensuite, l'extérieur se transforme. A priori, le corps va changer aussi. Logique de changer de dimension. Ce sera plus qu'en 3D. Pas vraiment qu'en 3 dimensions, il sera en 4 dimensions. Il est déjà là. C'est juste que c'est notre perception à nous qui va monter d'un cran, en fait. Parce que tout est déjà là, en fait. Hein, de A à Z. Alors, c'est un peu tordu, mais le problème, c'est que les informations sont multidimensionnelles et qu'on peut les regarder, les ramener en 3 dimensions sous une forme compréhensible, simple, pas si évident. En plus, on pourrait l'exprimer de tellement de manières différentes. De toute façon, il suffit de voir comment les gens l'expriment. Hein, c'est très, très différent. Voilà. Parce qu'en fait, chacun est dans son monde à lui, ses perceptions, sa vérité. Si je ramène à l'extrême simplicité de l'expérience, au centre, là, il y a l'étincelle divine. Et en fait, on est au cinéma en 3 dimensions. Donc, on est toujours ici et maintenant, puisqu'on est au cinéma. Vous êtes toujours dans la salle de ciné, hein, il peut projeter ce qu'il veut, vous êtes toujours dans la salle de ciné. Donc, il n'y a qu'un seul endroit. Et si je sépare en deux encore derrière, la logique bouddhiste est assez claire pour moi, parce que c'est des clairvoyants, les bouddhistes. Donc, forcément, ils ont ces perceptions-là. Vous avez la goutte blanche et la goutte rouge. Ici, c'est la connexion à la vérité des nœuds d'objets, jouissance de soi des nœuds d'objets. C'est-à-dire, dans le ventre, vous allez travailler l'émotionnel, dans la tête, vous allez travailler la connaissance. Logique, hein. Le père, la mère. Pourquoi ? Parce que, bon, semble-t-il, la goutte blanche vient du père, la goutte rouge de la mère. Mais en fin de compte, enfin du féminin plutôt, hein, du masculin, mais bon. Donc il y a cette idée de dire, si je dénoue les nœuds de cette goutte blanche, j'accède à la connaissance des nœuds d'objets. C'est-à-dire que dans l'instant présent, j'ai besoin d'une information, je l'ai. Hein, ça, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai besoin d'une information, ben, j'ai là. Bon, voilà. Après, qu'est-ce que j'en ramène ? Ça, c'est une autre paire de manches. Mais en tout cas, si ça s'est dénoué, voilà. La goutte rouge, quand je vais travailler le bas, je vais travailler le ventre, je vais travailler la connexion à la terre, c'est la jouissance de soi. Si je me réveille le matin dans une jouissance orgasmique de mes molécules, par exemple, ça m'est arrivé. Bon, je suis vachement plus en retard sur le bas que le haut, hein, donc j'essaie d'atterrir plutôt. Donc, voilà. Mais il y a cette idée, vraiment, on travaille ça. Quoi, hein. La jouissance de soi, c'est d'un coup, je suis heureux sans raison. Tiens, c'est sympa ça. J'ai pas besoin d'avoir quoi que ce soit pour être heureux. Et plus on travaille dessus, c'est un peu comme la connaissance. Au début, c'est par bruit, c'est par information, par éclair, on ne comprend pas grand-chose. Ça se développe. On travaille sur soi, ça, on évolue. Puis après, on a toutes les infos, puis après, on a trop d'infos. Puis après, ça devient quelque chose d'autre de plus puissant encore. Et là, c'est a priori, c'est la logique. C'est d'abord, de temps en temps, bah, je suis heureux sans raison. Puis de plus en plus. Puis voilà. Puis après, c'est encore quelque chose de plus grand. Voilà. Et quand ces deux-là s'unissent, le centre se dénoue. Et c'est là qu'apparaît cette perception sans forme. Qui est l'amour des nœuds d'objets. Qui l'a, hein, il est présent tout le temps. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, on n'a rien à créer, on a juste à déstructurer pour aller regarder. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne le voit pas. C'est normal, hein, si on a mis une couche par-dessus pour ne pas aller regarder. Sinon, on ne pourrait pas vivre l'expérience humaine. Si on savait qu'on est amoureux de tout le monde, on ne pourrait pas. Hein, si on savait que l'assassin qui nous poignarde dans la rue nous fait une déclaration d'amour, sauf qu'il y a de la peur dessus. C'est la même énergie. Hein. Voilà. Bon, c'est ce genre de choses. Mais ça s'expérimente, on travaille sur soi pour le découvrir, comprendre pourquoi est-ce qu'on attire ça dans son expérience, pourquoi est-ce que... une fois qu'on est réconcilié avec l'assassin en soi, il n'est plus dehors. Cette idée. Hein. Après, il y a une logique féminin-masculin qui est très importante. Qu'est-ce que c'est féminin, c'est l'intérieur. C'est masculin, c'est l'extérieur. Il y a tous féminin-masculin. Qu'est-ce qui se passe si le féminin et le masculin s'unissent complètement? C'est l'éveil. Il n'y a plus d'intérieur, plus d'extérieur, je suis l'univers entier. Bah oui, ça c'était la blague du départ. Mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils soient déséquilibrés à un moment dans leur prise de pouvoir? Parce que sinon, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas cette notion d'avoir un corps, puisque j'ai plus d'intérieur et d'extérieur. Donc on peut travailler par l'intérieur ou par l'extérieur. Le féminin va travailler plutôt par l'intérieur. Alors, au départ, la spiritualité est plutôt féminine, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, les perceptions à l'objet, c'est plutôt des perceptions de sorcière au départ. Pourquoi? Parce que l'homme a un corps physique plus puissant, la femme a un corps énergétique vachement plus puissant. C'est-à-dire que si la sorcière elle commence à balancer de l'énergie, on soulève, le curé soulève la jupe et il court. Hein. C'est... Ah oui, il n'a aucune chance. C'est-à-dire que les femmes, en fait, comme elles incarnent un enfant, ça aussi c'est intéressant, peut-être j'entends. Donc il y a une connexion au monde spirituel extrêmement puissante parce qu'il faut l'incarner à cet enfant. Puis à la Terre, hein. C'est les dragons, donc l'énergie de la Terre qui gère l'incarnation, c'est des énergies très très puissantes. L'énergie des règles, l'énergie féminine. Les hommes, en fait, à l'origine, le chaman, il dit les femmes, elles ont leurs règles, elles ne viennent pas sur le lieu sacré. Pas parce qu'elles sont impures, hein, c'est parce que nous, on ne supporte pas. C'est trop puissant pour nous, on ne peut pas supporter. Voilà, c'est un peu l'idée qu'il y a derrière. Et puis, avec l'obscurantisme, avec le déséquilibre féminin-masculin, où l'homme, bien sûr, c'est un secret de Polichinelle, marche un peu sur la tête de la femme, hein, depuis quelques milliers d'années, il y a cette logique de dire finalement, non, c'est juste parce que. Non, c'est parce qu'elle est impure, c'est pas bien. Elle est pas... Ah non, elle n'a pas de pouvoir, surtout pas qu'on lui dise qu'elle est plus puissante que nous sur le plan énergétique, sinon on est mal barré. Donc il y a une volonté à un moment de... Et pourquoi ça a lieu? Simplement parce qu'on est dans l'obscurantisme et qu'il y a forcément un déséquilibre qui doit se créer. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce déséquilibre est en train de se compenser. Ce qui signifie que les femmes retrouvent leur pouvoir, aïe aïe aïe, et en même temps que les gens retrouvent leur perception. Pourquoi? Parce qu'au lieu de regarder à l'extérieur et de s'agiter partout, ils commencent à regarder à l'intérieur. Et ces perceptions subtiles, elles sont à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qui se passe? On commence à rééquilibrer les choses, en fait, en réalité. Bon, parce qu'on n'a pas le choix. Hein. C'est la fin du cycle, donc de toute façon, on est obligé d'évoluer. Alors après, chacun va le vivre différemment. Et bon, là, je ne sais pas trop où j'en suis. Ouais. Bon, parce que je ne veux pas non plus aller trop loin là-dedans. Donc, l'idée d'aujourd'hui, c'est ça, hein, c'est on rééquilibre ses énergies. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'humain vit une expérience d'individualité. Chakra 1, chakra, jusqu'au 7. Le 1, c'est le Big Bang, la séparation. Le 1 et le 7, c'est le même chakra. En fait, il y a un canal entre les deux. Ça, quand on les touche, ou quand on peut les percevoir, on perçoit bien que le 1, il est là, il descend, c'est une antenne qui descend, qui va s'ancrer. Et le 7, il monte dans le monde spirituel. Mais en réalité, c'est un tour de passe-passe divin. Le monde, il est créé comme ça. Hein. C'est Big Bang et réintégration. Voilà. Pulsion de vie, pulsion de mort. La pulsion de vie, elle est dans la jouissance de la vie, mais elle s'ignore elle-même, elle n'a pas la connaissance. La pulsion de mort, c'est la connaissance. Hein. Voilà. Donc on a énergie électrique aussi énergie magnétique, pour le dire autrement. Quand les deux s'unissent dans le cœur, ça fait l'électromagnétisme, attraction, répulsion entre les molécules. Donc effectivement, il y a une logique à un moment de dire si quelqu'un est capable d'unir les deux dans le cœur, donc est un humain assez évolué, oui, il peut manifester des objets, a priori. Bon, je ne peux pas le faire, hein. Mais voilà. Après, voilà. Donc il y a cette idée 1 à 7 qui gère l'individu. 1 à 7 en haut, c'est la connaissance, et en fait, on a moins 1 et moins 7, ce qui n'est pas connu, ce qui est plus ou moins volontaire, ce qui est plus ou moins dû à l'obscurantisme. Parce que ceux qui avaient le pouvoir, ils n'avaient pas super envie que les autres le sachent quand même. Hein. Peut-être toujours, il y avait un petit peu cette idée. C'est à un moment, il y en avait qui avaient des perceptions très puissantes. Comme on travaille l'individualité dans l'obscurantisme, on ne pouvait pas les partager. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Hein. C'est quand vous allez voir les constructions des églises, je peux vous dire que ce n'est pas des trucs. C'est pas du petit travail, les gars ils savaient ce qu'ils faisaient, sauf qu'ils n'en parlaient pas. Et puis quand vous traversez ça, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes. Puis des fois, au milieu de tous les trucs éthériques, il y a un canal qui part dans le manoir du coin avec plein de magie noire au milieu, tiens. C'est le sorcier du coin, il se servait sur le réseau des églises, quoi. Bon, c'est un peu le piratage, mais voilà. Bon, on trouve vraiment des choses comme ça, hein, donc les gars. Donc, moins 1, moins 7, c'est 1, 7, c'est j'ai l'info. Moins 1, moins 7, je la ramène dans la matière, je suis dans l'action. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe chez beaucoup de gens qui ont des perceptions ? Généralement, il y a une fuite de la vie au départ, une peur. Donc, c'est des petits ballons qui montent un peu dans l'espace. La logique de l'autiste, je suis un ballon prisonnier du ciel, je ne sais plus quelle était la chanson, là, mais c'est vraiment ça. Hein. Et donc, on ne peut pas rentrer dans l'action. On peut avoir l'information, mais pas rentrer dans l'action. Donc, qu'est-ce qu'on fait en allant en forêt ? On va connecter un peu toutes ces énergies primaires en bas. On va aller voir toutes les choses que personne n'a envie d'aller voir, hein, notre propre cruauté, entre autres. Parce que s'il y a de la cruauté dans le monde, c'est qu'elle est chez nous. Notre cruauté, notre sadisme, toute la survie, hein, on va aller voir tout ça. On va réparer ça, en fait. On va lui redonner ça à son rôle. Et qu'est-ce qui se passe ? Ben, d'un coup, en dessous, ça ne marche pas. Et d'un coup, le haut et le bas, ça devient puissant. Puis au lieu d'avoir juste, je prends de la lumière dans la tête, tiens, ça descend, puis en dessous, ça monte, et puis il y a des racines, hein. Et ça fait un échange, et tiens, oh, le centre est sous. Ah oui, la perception n'est plus la même, ce que je vois, c'est parfait. Dans le troisième œil, j'étais toujours en évaluation au jugement, c'est normal. Le mental, il fonctionne en évaluation de son environnement. Donc je regardais une énergie par rapport à moi. Et là, je suis dans le cœur, et ben, je ne vois pas ce que je vais écrire, parce que de toute façon, c'est parfait. Et il faut le vivre, voilà. Alors c'est pareil clair, moi, je débute hein, là-dessus, mais voilà. Voilà, donc il y a cette idée, donc un 7 individu, et aujourd'hui on a des nouveaux chakras qui apparaissent. Alors, c'est des tours de passe-passe, on appelle ça des chakras, pour moi ça n'en est pas. Mais c'est là, on va pas dire que c'est pas là, puisque c'est là. 8 à 12, et moins 8 à moins 12. Le 1 à 7, il connectait l'individu, le 8 à 12, c'est le groupe. Donc jusqu'à présent, on fonctionne en groupe au niveau du troisième chakra, c'est-à-dire qu'on fonctionne au niveau du groupe animal. Il y a le dominant, le dominé. Il y a le chef qui fait pipi partout. Et il y a les autres qui le regardent en applaudissant. Hein, c'est pas trop chaud. Voilà. Donc il y a à peu près que ça. Oui, non, mais regardez un petit peu aujourd'hui, vous verrez que c'est ça un peu partout. Hein, vous savez, au travail, d'ailleurs. Il y a cette logique de dominant-dominé et de fonctionnement au niveau animal en groupe. Le 8 à 12, ça rajoute le fonctionnement en groupe au niveau spirituel. C'est très différent. C'est d'un coup, on n'est plus un groupe avec un tas d'animaux, puis le dominant, il donne des ordres et les autres, ils applaudissent. C'est d'un coup, on est tous les cellules du même corps. Tiens, pas du tout la même chose. Donc en fait, ah ben oui, l'humain c'est ça, c'est on est tous une cellule du même corps, on a tous notre utilité, on est tous différents. Une cellule de doigt, c'est pas une cellule de tête, c'est pas une cellule de pied. Vous en enlevez un, le reste il dégage. Bon, peut-être pas une cellule, mais il y a cette idée derrière. Si on en enlève un, le reste ne fonctionne plus. Donc on a besoin de tout. Et en même temps, qui est le chef ? Ben personne, c'est le groupe. C'est l'énergie du groupe qui donne les infos, qui sait ce qui est bon pour le groupe. Donc le 8 fonctionne comme ça. La première chose qu'il fait le 8, c'est qu'il va réparer un 7. C'est tu rentres dans le groupe et on traite par l'individu. Première chose. Donc on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi est-ce que le chamanisme, ils ont ouvert les connaissances, et puis pourquoi est-ce que tout s'ouvre et qu'on donne des infos ? Bah parce qu'en individuel, ça ne marche plus. On est obligé de travailler en groupe. Parce que ces énergies marchent comme ça. C'est comme ça. On est dans un monde, en l'espace de 10 ans, on a changé complètement de monde. C'est-à-dire que, puis même si je regarde il y a 6 mois, en arrière à aujourd'hui, c'est encore... C'est abominable. On fait des montées énormes. Donc en fait, on n'est plus du tout dans la... on avance tellement que de toute façon, on est obligé de rentrer dans cette logique-là. Et ça se voit sur des gens qui n'en ont rien à faire de spiritualité, et de choses comme ça. Hein. Tout le monde qui commence à se dire, tiens, je comprends pas, mon boulot il m'emmerde, ça se passe pas bien, hein. Est-ce que je pourrais pas être heureux ? Ouais, normal, hein, on est dans des énergies qui bougent comme ça. Puisqu'il y a une logique de fidélité à soi-même qui se met en place. C'est l'énergie qu'il y a depuis juin, enfin l'énergie, c'est un petit peu l'info. J'aime bien regarder ce qui se travaille sur les gens. Généralement, c'est la même chose, hein, mais chacun le vit différemment. Et il y a cette logique, en ce moment, c'est fidélité à soi-même. Et ça, c'est la porte de sortie de tout le système d'égrégore. Parce que le système d'égrégore ne marche que en l'asservissant de la couleur. Pour ce plus, non. C'est pas grave. Ah oui, c'est vrai, c'est notre création, il fait ce qu'on lui a demandé. Hein, qu'est-ce que c'est, en fait, un égrégore ? C'est une névrose. Sauf que les névroses, normalement, c'est à l'intérieur. Ben oui, elles sont aussi à l'extérieur. Ça s'appelle un égrégore. Ça s'appelle un pays, ça s'appelle un gouvernement. Qu'est-ce que c'est ? C'est tangible, non ? Et c'est vrai qu'il y a des structures dans la matière qui disent appartenir à cet égrégore. Mais par contre, derrière, il y a un vrai égrégore. Hein. Il y a vraiment quelque chose de conscient qui élève l'humain, en fait. C'est un peu cette idée. Sans rentrer non plus dans des choses... Voilà. Après, il y a une logique. Comment est-ce qu'on fait rentrer un humain, comment est-ce qu'un égrégore élève un humain ? Logique du mouton, je fais des moutons. Bah, on les castre, c'est très simple. C'est comme les chats. Le chat, vous ne voulez pas qu'il aille se balader, qu'est-ce que vous faites ? Bah, vous le castrez, il reste devant la télé, il mange des croquettes. c'est pareil pour le match. Qu'est-ce qui se passe quand on passe du premier chakra, donc l'individu, jouissance de soi-même, etc. Déjà, ça c'est très problématique chez les enfants. On arrive au 2. Le 2, c'est liberté, sexualité sacrée. Donc c'est l'adolescent. Alors, non, l'adolescent, il fait son baluchon, il part visiter le monde. Il apprend à faire des choix, puisqu'il est au 2, des choix. Qu'est-ce qu'on fait? On l'empêche. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a plus aucune notion de sacré, plus de liberté et plus de sexualité. Ça passe par du mental. La vraie sexualité, c'est pas du tout ce qu'on vit à l'heure actuelle. C'est une fusion. La sexualité, c'est je fusionne avec l'autre, je partage et je fusionne. C'est l'énergie du groupe des deux qui donne l'information. C'est pas je suis dans ma petite armure mentale, émotionnelle, spirituelle, et l'autre pareil, et puis on arrive, et un des deux il fait le dominant, l'autre il fait le dominé, et puis voilà, c'est un peu ça aujourd'hui. Hein. Et il y en a un qui s'écrase et l'autre qui prend son pied en résumé. Donc c'est pas du tout ça la sexualité au départ, c'est un partage, une fusion. Je fusionne avec l'autre. Quand vous, quand vous travaillez sur les énergies de la forêt, vous êtes que sur du primaire, il n'y a que de la sexualité. Pourquoi? Parce que l'énergie sexuelle, c'est la mère de toutes les énergies dans la matière. Hein, ça paraît assez évident quand même. Hein. C'est la sexualité qui incarne un enfant quand même, dans la logique. Puis on arrive tous par là. Hein. Donc c'est qu'il y a un rapport. Hein. Et qu'est-ce que c'est un éveil du Kundalini? C'est les énergies sexuelles qui remontent. Et quand ça monte tout en haut, on remonte dans la vacuité. Hein. Il n'y a plus de matière. Donc la matière passe par la sexualité obligatoirement. Donc c'est la mère de toutes les énergies. La sexualité au sens très large, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est au départ? C'est la jouissance de soi-même. C'est pourquoi on s'incarne, c'est pour jouir de nous-mêmes. Voilà, il y a cette idée, hein, Dieu, c'est le roi des grands. Pourquoi? Parce qu'il a créé le monde pour jouir de lui-même. Ben oui. Hein, c'est, donc, premier chakra, c'est ça, c'est Big Bang. C'est, on se sépare, pof, je suis un, puis je passe à plein. Et l'idée, c'est je vais m'expérimenter en relatif, et en même temps, je suis là pour jouir de moi-même sous tous les aspects, au sens très large. Y compris, qu'est-ce que c'est d'avoir un corps qui souffre? Ça aussi, c'est une expérience de soi. Voilà. Bon. Donc, il y a cette idée-là. Voilà. Donc, la sexualité, on va la retrouver absolument partout, dès qu'on va travailler sur le bas. Voilà. Après, on ne parle pas de rapport sexuel, hein, parce que là, pour arriver à ces niveaux de tantrisme, il faut avoir dégagé tellement de quantités de peur, de machin, c'est déjà vis-à-vis de soi qu'il faut régler une quantité de problèmes phénoménaux. Mais ça vient, a priori. Voilà. Donc pour moi, cette année 2011, il y a une logique de nettoyer le mental. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça peut être vécu très différemment. Il y a des gens, le mental... Ah oui, bon attends, je vais définir ça. Mental et ego, les deux trucs que tout le monde veut abattre, là, les deux bêtes noires, là, que tout le monde veut tirer dessus. Le mental, c'est ce qui modélise le monde, c'est la carte graphique. C'est si je vois le monde, c'est si je vois un monde solide, hein, c'est parce que j'ai un mental. S'il n'est pas là, il n'y a pas de monde solide, hein, c'est, je suis à l'asile psychiatrique, hein, généralement. Hein, la plupart des gens qui sont à l'asile... C'est soit ils ont un mental défaillant, c'est-à-dire qu'ils vivent dans un espace-temps et ils regardent dans un autre. Ça, c'est vraiment très emmerdant. Soit ils n'ont pas un mental qui modélise le monde correctement, pour plein de raisons. Et donc, ils sont bien emmerdés quand même. Hein. Donc, un mental puissant, ça double tranchant. C'est lui qui crée les histoires, parce que le monde n'est qu'une construction de lumière vide quand même au départ. Hein. Pour qu'il y ait une histoire, c'est un peu comme la télé. Hein. Si on n'est pas en train de la regarder et en train de vivre l'histoire, bah, c'est juste des pixels de couleur. Donc, il faut quand même que le mental crée les histoires. Donc un mental puissant, ça veut dire que je peux intégrer des perceptions très puissantes, je peux regarder le monde sur plein de niveaux. Par contre, si je m'embarque dans une histoire, alors là, je vais bien m'y embarquer. Quoi. Donc ça double tranchant. Un mental pas très puissant, ça veut dire bon, ben, je m'embarque pas trop dans des histoires, mais les perceptions, il va falloir qu'elles restent quand même à un niveau un peu léger, parce que sinon, je ne vais pas l'intégrer. Je vais percevoir quelque chose, mais ça va déborder, le mental il va disjoncter derrière, donc ça sert à rien. Donc le mental, qu'est-ce qu'on cherche à faire? À le remettre à sa place. Qu'est-ce qui se passe dans un monde mental? Si on utilise la carte graphique, donc pour parler informatique, après je définis autrement, de l'ordinateur pour à la place du processeur. On demande au mental de réfléchir, c'est-à-dire on lui dit tiens, on te fait ingurgiter des trucs, après tu les ressors. Mais c'est pas ça l'information. J'ai besoin d'une info, je la connecte. Ça, c'est le processeur. Le mental, qu'est-ce que c'est? C'est juste il fait que modéliser des choses. Donc lui, il fige, c'est son rôle. On est dans un monde en transformation constante et lui, hop, il fige un peu pour qu'il y ait une constance. Hein, on vieillit, hein, on change tout le temps quand même. Mais on a quand même une illusion, ça, c'est à peu près stable. Il sert à ça. Donc si on lui donne le pouvoir, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il lui dit, moi mon rôle c'est de figer, je fige. Donc tiens, je vous fais une société bien figée, moi, vous allez voir. On rajoute sans arrêt des trucs, des dogmes, dans tous les sens. Tiens, je te rajoute des lois. Puis à un moment, comme le monde il change quand même, qu'est-ce qui se passe? Il y a un autre égrégore qui arrive, qui prend la place. Paf, une civilisation s'effondre, une autre arrive. Et c'est comme ça depuis des milliers d'années, hein, c'est mon mental. C'est, je crée des lois, bon, qui sont ce qu'elles sont, puis il y en a un autre qui arrive avec d'autres lois, puis il prend la place, et puis c'est reparti. Hein, pourquoi? Parce que le mental fige. Il joue ce rôle-là. Donc si on lui donne le pouvoir, c'est ce qu'on fait. Hein. On dit, tiens, le pays France, ça n'a pas de sens, c'est un égrégore. Ça n'a pas de sens dans la matière. Hein. Parler avec un arbre, lui, il ne sait pas ce que c'est la France. Hein. Ou, bon, si vous donnez l'info, il veut bien l'avoir, on s'en fout un peu de votre équipe. Donc il y a un peu cette idée derrière, c'est quand même c'est une construction. Et c'est que nous qui le voyons comme ça et qui nous donnons ce pouvoir-là. Donc, donc ce système d'égrégore, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il élève de l'humain et il cherche à figer un certain type de société. Voilà, parce que c'est son rôle. Donc le mental, donc pour recadrer, sert à ça. Si on lui donne son vrai rôle, on dit attends, égrégore, la rigidité, tu oublies. On donne le pouvoir à celui qui sait la part absolue et c'est elle qui va contrôler le mental. Tiens, qu'est-ce qui se passe si. Ah ben, c'est un peu la. Je suis con, hein, la modélisation du monde, elle est trop pourrie. De toute façon, il y a trop d'informations, je comprends rien. Toi, tu sais, moi, je suis con. Je suis juste là pour vivre les choses. Je fais le choix, tiens, c'est toi qui décides ce que je vois. Et là, bizarrement, le monde change de forme. On rentre dans une pièce, silence, plus de blabla dans la tête. Puis, tiens, il y a une masse d'énergie au milieu. Eh ben oui, c'est ça qu'il faut aller voir. Alors que si je commence à arriver, je check les morts, les extraterrestres, les machins, tu vois, je suis dans 3 millions d'années, hein, en train de checker mon... Parce que les niveaux dimensionnels, ils sont infinis. Donc lui, il sait, il me montre ce qu'il y a à voir. Je regarde les gens, puis tiens, lui, il a connecté une névrose, il vient de changer de tête. C'est rigolo. Je m'en sors de monsieur. Hein, je lui dis ça, c'est à mourir de rire. Alors, il faut s'habituer. Hein. Au départ, c'est un choc, mais l'éveil de Kundalini a provoqué ça. Il y a un voile de rigidité qui a sauté, je pense. Un voile, c'est comme ça qu'il est des bouddhistes, je pense que c'est ça. Le monde change tout le temps. Donc je me lève le matin, c'est la surprise. Bon, l'avantage, c'est que de toute façon, comme au départ, la notion d'identité, c'était pas trop mon truc. Je reconnais personne, donc ça change rien. Mais je reconnais peut-être. Des fois, je me dis que je ne reconnaîtrai pas ma mère dans la rue. Pourquoi? Parce que les gens changent de forme suivant ce qu'ils connectent. Et comme mon mental, enfin, pas complètement, hein, vous n'êtes pas non plus à devenir complètement dingue, mais quelqu'un parle et puis c'est rigolo, d'un coup il change de tête, bah tiens, il a connecté. L'info, c'est, elle est très simple. Hein. Il vient de connecter un karma. Tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et la grand-mère? Ouais, il prend la tête à la grand-mère, hein, c'est bon, à mourir. Quoi. Et, pas comme vous l'imaginez, hein, c'est une perception différente, mais et c'est super rigolo. Voilà. Ou je passe dans la forêt, puis tiens, il y a un escalier dans le rocher. De j'y vais, ouais, c'était là qu'il fallait aller, puis je repasse le lendemain, il n'y a plus d'escalier. Bon, il se fout pas un peu de ma gueule, là, ouais. Mais pourquoi, à un moment, j'accepte que je lui redonne le pouvoir de modélisation. Donc, il y a cette idée en spiritualité, on ne cherche pas à flinguer le mental avec un fusil à pompe, hein, contrairement à ce qu'on croit, on cherche à le remettre à sa place. Modéliser. Point barre. Il ne sert qu'à ça. C'est pas lui qui décide ce qu'il modélise, ça se passe très bien. Après, un deuxième principe qu'on cherche tout le temps à flinguer, c'est l'ego. L'ego, c'est très simple, c'est le principe de survie. À quoi il sert? Et quand un enfant arrive, bon alors, ça je rentrerai pas dans ces détails-là, mais dans un monde obscurantiste, forcément ça se passe pas très bien l'atterrissage, on va dire ça. Quand un enfant arrive, il commence par structurer son ego. L'ego, il va dire, attends, ta forme c'est ça, donc il sert à ça l'ego, hein, il limite ta forme. S'il n'y a pas d'ego, on est directement avec l'ego. Donc quelqu'un qui est ici a un ego, c'est obligatoire. Hein, il n'y a pas le grand maître machin qui a plus d'ego, hein, c'est juste qu'il est caché l'ego. Ou si c'est un vrai grand maître machin, l'ego est à sa place, tout simplement. Il est dans le principe de survie, mais la survie, la personne, elle n'est plus en train de mettre de la survie dans ses relations avec les gens, de la survie dans son environnement, de la survie dans sa santé. Parce que c'est ça, pourquoi l'ego est partout? Parce qu'on est en survie partout, tout simplement, parce qu'on s'est structuré en survie. D'accord? Donc quand on enlève l'ego dans ces choses-là, on dit, bah, tiens, j'arrête d'être en survie par rapport à tel comportement. Alors bon, ça se fait en déstructurant, hein, en travaillant sur soi. Ben l'ego, petit à petit, se retire de tout ça, puis le territoire, au lieu qu'il défende un territoire où il y a ma maison, mes enfants, ma femme, enfin c'est ma chose, hein, ma femme, puisque mon ego, mon principe de survie, dit que si elle n'est pas là, je meurs, donc tu restes là, puis tu fais ce que je te dis. Hein. Ah oui, c'est logique, c'est le principe de survie. Si d'un coup, ah ben tiens, je lui rends son pouvoir, puis je reprends le mien, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, à un moment donné, on n'est plus en survie à ces niveaux. Voilà. Donc on n'est plus, l'ego se remet à sa place. Voilà. Donc quand, alors l'avantage de pouvoir devenir les autres, c'est que moi je me suis amusé, je me suis dit, tiens, il y a des pratiquants soi-disant très élevés, je vais voir comment ils sont foutus. Pourquoi pas, hein, moi je suis qu'un, ben, je vois passer plein de gens qui se prennent pour des, bon qui croient qu'ils ont une identité, mais qui sont qu'un tas d'énergie pour moi en fait, hein, avec un océan d'énergie, avec des courants. Et qu'est-ce que c'est quelqu'un qui évolue? Voilà. Donc l'info c'est d'expérience directe, quelqu'un qui ne travaille pas sur lui au départ, au tout départ, ça va être un tas d'énergie, pour moi c'est un océan déchaîné. Alors les bouddhistes disent des vents, mais je pense que c'est parce qu'ils sont dans la montagne. Moi j'habite à Marseille, à côté de la mer. Donc effectivement, quand j'ai perçu ça, pour moi c'est un océan d'énergie, et c'est des courants qui passent dans tous les sens, des petits mouvements. Et ça passe, et puis la personne s'accroche à ça et croit qu'elle est le petit courant qui vient de passer. En fait. Voilà. Donc il n'y a pas trop d'individualité. L'individualité est précaire à ce niveau-là, c'est illusoire. C'est tous ces petits mois qui passent. À un moment, les pratiquants de niveau, je dirais, intermédiaire, ils ont soit de la lumière dans la tête, soit du feu dans les fesses. Hein. C'est collection feu de la terre ou à la lumière. Et c'est de plus en plus puissant. Et après, on va chercher les gens comme Abba, tout ça, là. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, des gens qui sont soi-disant très élevés, a priori pas soi-disant. Effectivement, ils n'ont plus du tout le même corps énergétique que nous. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun courant. C'est un aquarium. C'est rigolo de venir voir comment ils sont foutus, quoi. C'est un aquarium, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun courant, tout est calme. On ne perçoit plus le feu et la lumière parce que c'est fusionné sur quelque chose qui a un goût différent. Alors là, c'est difficile de le décrire, mais c'est un goût de divin différent. En fait, ils incarnent un aspect du divin, tout simplement. Parce qu'ils ont uni les deux dans le cœur et puis ils sont passés à cette évolution humain. Mais ils n'ont pas fini l'humain, sinon ils ne seraient plus là. Ils seraient au niveau d'après. Est-ce qu'on peut aller discuter avec ceux du niveau d'après aussi? C'est intéressant. Voilà. Ceux du niveau d'après, ils sont multi-émanations. Il y a une logique comme ça. D'ailleurs, des fois, on va débarquer des gens, ils sont un peu du niveau d'après, ils sont revenus chez l'humain. Pourquoi? Parce que, en réalité, l'humain, c'est le seul dans toute l'expérience avec le Bouddha entièrement réalisé qui a cette impression de séparation du monde et de liberté. Parce qu'il a libre arbitre. Et après, il y a un renoncement au libre arbitre pour passer dans ces états. Qu'est-ce qu'on va trouver? Je vais peut-être vous donner une belle idée, mais dans les niveaux au-dessus, on va trouver quoi? On va trouver tout ce qui est esprit multidimensionnel, on va trouver des planètes, entre autres. Ah, c'est marrant, hein, tu vois, rappliquer un gars, une énergie bien incompréhensible. Ah ben c'est une émanation d'une planète, le gars. Ok. La plus bizarre en plus. Ah oui, parce que sinon ça fait interaction avec la Terre. Ah d'accord, si tu le dis, bon. Bon, voilà, un truc vraiment bizarre. Puis en plus, il n'est pas tout seul, hein, il y en a plein. Et parce que c'est multi-émanation, bon, après le gars, c'est un humain, comme nous tous. Quand je dis qu'il y a autant de différences entre deux humains qu'il y a entre... C'est vraiment ça, puis il y a tout, hein, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on voit. Voilà, donc en fait il y a vraiment tout. Après, est-ce que c'est nécessaire de savoir? Peut-être pas, mais c'est amusant. Donc il y a cette idée, après il y a le niveau archangélique, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est plus une planète, c'est une galaxie. C'est plutôt cette idée, en conscience. Et le niveau bouddhique, c'est quoi? C'est l'univers en conscience, l'univers conscient de lui-même en fait. Il y a cette logique derrière. Voilà. Donc après, il n'y a que le Bouddha entièrement réalisé, donc à savoir... Celui qui est en fin de cycle, qui est prêt à retourner en vacuité, qui a toutes les libertés. Les autres, ben, ils n'ont pas de libre arbitre. Donc qu'est-ce qu'ils font? Régulièrement, ils envoient des émanations chez les humains. Alors je dis émanation parce que c'est plutôt ça en fait. Sauf que des fois, l'émanation, ben, sa conscience, elle n'est que sur l'humain. Donc elle n'a pas conscience d'être une émanation d'un truc plus haut. Et qu'elle est juste venue chercher une information qui a un sens chez l'humain, mais qui en a surtout un à un niveau qu'on ne comprend pas. Hein, parce que la planète, alors c'était marrant, parce que le gars, je travaillais avec lui, puis il avait des problèmes avec la mère, la méchante et la gentille mère. Je ne comprenais pas pourquoi il avait structurer son inconscient comme ça. Puis, alors, ben, c'est normal, la planète, il y a deux lunes et elle ne sait pas comment faire. Elle voulait savoir comment on fait pour gérer deux lunes. Ah ben, on les fusionne, hein. Ah, ok. Ah, c'est un peu l'astrologie, hein. Si on travaille sur le nom, on travaille sur le ciel aussi. Hein. C'est pareil. Hein. Le ciel, on est tous de la poussière d'étoiles, à un certain niveau. Big Bang. D'accord. Bon, on voit des choses vraiment bizarres, pas forcément compréhensibles, parce que c'est sur plein de dimensions en même temps. Enfin, c'était juste pour vous donner une idée de ce qu'on peut rencontrer et qu'est-ce qu'on trouve dans ces niveaux. À savoir que quand on parle, alors je vais aussi définir peut-être les énergies extraterrestres, ça aussi c'est intéressant parce qu'il y a des gens, bah, pas de chance pour eux, ils voient que des extraterrestres partout. Hein. Pourquoi? Bah, parce qu'il faut résoudre l'espace-temps. Ce qu'on cherche, c'est l'éternel moment présent, sauf que pour le résoudre, pour résoudre le passé et le futur, ça paraît assez évident. Qu'est-ce qui se passe? On a des ouvertures temporelles qui sont assez constantes. L'avantage, bon, moi, de mes perceptions, pour moi tout est là. Tous les espaces-temps au même endroit. C'est pas... Mais dans l'énergie, ça... heureusement j'ai mon film qui se déroule bien, parce qu'il y a des gars, ils sont à l'asile psychiatrique, parce que justement, eux, ils sont dans tous les espaces-temps en même temps aussi. Hein. C'est notre paire de manches. Bon, l'avantage, c'est que ça se déroule bien à ce niveau, dans l'énergie. Je veux aller voir Napoléon, je peux aller lui serrer la main. C'est l'avantage. Pourquoi? Parce que j'appelle une émanation. Enfin, pas moi, hein. Je laisse faire. Et tu veux savoir comment c'est d'être lui? Tiens, hop. Ah ouais, effectivement, c'est intéressant. Bon, tout est là. Donc il y a des ouvertures temporelles constantes. Qu'est-ce qui fait qu'on croit être un individu? Et ben c'est parce qu'en fait on a un passé et on est la somme de ce passé et on a plein de futurs potentiels. Qu'est-ce qui se passe? Et ben les passés et les futurs changent tout le temps en réalité et on s'en aperçoit pas parce que notre part absolue refait l'expérience régulièrement pour s'adapter à nos choix tout simplement. Donc tout ça pour le percevoir, il faut être à ce niveau en fait. Voilà, faut avoir trouvé le moment présent. On croit être dans le présent personnellement. C'est très stressant en fait au départ. Il faut vraiment quand même avoir, encore une fois, je le dis, alors pas croire que tout ça, bon, il y a le côté, voilà, bon, j'aurais fait un retour d'expérience, mais quand on le vit, c'est dur, ça fait très peur. Hein. Quand vous avez le cul assis sur un volcan et de tonnes de lumière dans la tête, et puis que vous ne savez pas si vous allez exploser la seconde après, c'est stressant quand même, hein. Ouais, des choses comme ça. Quand la notion de temps, à un moment, en évoluant, à force de travailler là-dessus, à un moment, j'ai plus de but. Vous levez un matin, vous n'avez plus aucun but. Si vous êtes là, vous êtes bloqué là. Hein. Ah, je voulais être ça, je voulais faire quoi? Ben non, ça n'existe plus. Ah, qu'est-ce que je fous là, moi? Alors, ah, ben, je vais aller regarder autre chose, hein, parce que... Ouais, bon, il faut ramener la conscience ici, d'accord. Bon, mais il n'empêche qu'à un moment, c'est très difficile quand le mental commence à se transformer. C'est d'un coup, il faisait des choses, puis il ne les fait plus. Mais sauf que moi, je suis né comme ça, c'est mon repère, et puis d'un coup, il n'y est plus. Bon, l'avantage, c'est que je suis habitué à ce que ça change un peu de forme, mais quand même, quoi. Ouais, voilà. Donc ça, il faut un certain temps pour intégrer l'expérience. Puis après, on s'aperçoit qu'en fait, l'outil est toujours là. Il dit, tiens, je vais faire un agenda, je peux le faire quand même. Mais seulement, il faut que j'aille l'appeler consciemment. Alors, c'est le bordel. Alors, les gens, après, ils n'aiment pas. Tu reçois un SMS. Je peux venir le mois prochain. Je dis, le mois prochain. Quand vous venez, vous m'envoyez un SMS, c'est mieux. Pourquoi? C'est trop compliqué, j'ai pas envie de m'emmerder avec ces gestions-là. Surtout qu'on s'aperçoit qu'en fait, comme il y a la part absolue, gère tout ça, c'est parfait. Voilà, cette logique-là. Donc, je parlais d'extraterrestres. On va aller voir les autres espaces-temps, les spirales. Nous, on est sur un niveau de spirale, quand on regarde, on fait un saut quantique, on va regarder les spirales au-dessus. Ou eux vont venir nous regarder, et tout est relatif. Nous, on est forcément de leur passé. Et eux, c'est des futurs potentiels. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a un futur potentiel qui vient et qui ne me plaît pas? Il est négatif. Et quand il me plaît, il est positif. Tout simplement. C'est un futur où j'ai bien envie d'aller, cet extraterrestre a l'air très positif. Bon, je ne sais pas trop quelle forme il a, après, c'est notre paire de manches, mais tiens, ça c'est un futur que j'aimerais bien aller visiter. C'est tout. Et qu'est-ce qu'il fait là, lui? Lui, il avait un problème à régler. C'est toujours à double sens. Lui vient régler son passé. Il dit, je résous dans le passé, c'est plus simple, ça résout chez moi. Oui, c'est logique. Voilà, donc vous allez trouver ça. Il faut traverser ça pour trouver l'instant présent. Bon, je pense que là, j'ai dit vraiment beaucoup de trucs. Bon, donner une idée à peu près de tout ce qu'on peut trouver là-dedans, dans le type de perception. Dire qu'aussi, il y en a, ils sont que sur des anges, que sur des extraterrestres, sur rien du tout, que de l'énergie, et qu'en fait, bon, tout le monde a raison. La question, c'est de savoir sous quel angle ils regardent la réalité, et c'est normal que tout le monde soit différent. C'est l'expérience humaine. Voilà, donc si vous avez des questions après cette lobotomie d'information, je vous écoute. On va lever la main si vous avez des questions. Oui, vas-y, je t'écoute.
Et toi, alors, qu'est-ce que tu fais là? Alors, c'est parce que tu nous racontes tout ton truc, mais t'es venu pour quelque chose aussi, du coup.
Ici, là?
Ouais.
Moi, c'est l'expérience humaine qui m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe si je suis devant plein de gens, et puis je te parle comme ça pour voir ce qui se passe? Plus compliqué que ça, non? Peut-être que le monde réel, il est très simple, en fait.
Oui. Non, je dis, c'est excellent.
C'est l'humain qui m'intéresse, moi. Pourquoi? Parce que c'est nouveau pour moi, l'humain. Le problème des gens comme moi, c'est qu'on est un peu trop dans le ciel au départ, et après on intègre l'humain en deuxième. Moi au départ, il y a une base autiste, très dur de communiquer avec des gens. Ça a pris des années pour arriver à parler avec une personne. Alors j'avais trouvé des freins quand j'étais petit. Hein. Bon. Parce qu'il fallait que je le compense. Voilà. À un moment, donc communiquer pour moi, c'est une expérience qui nécessite plus de dépassement que le reste. Et c'est intéressant de voir qu'à un moment, on a travaillé suffisamment pour faire blabla pendant. Alors qu'on ne pouvait pas parler avec une personne. C'est juste pour voir que, on travaille sur soi, bizarrement, ça évolue. Voilà. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'humain, l'expérience humaine. Parce qu'en fin de compte, à un moment, quand on se centre là, c'est vraiment ça qui est parfait. L'humain parfaitement centré dans sa simplicité, le Bouddha, c'est la même chose. Pour moi. Mais je chemine pour l'instant là-dessus, c'est très récent. Hein. Je crois que.
Dans la continuité de ceci, alors, pourquoi choisir l'humain plutôt que le Bouddha?
C'est un cheminement. Pourquoi est-ce qu'on est la conscience dans cet espace-temps à un moment donné?
Et le Bouddha lui-même n'est-il pas, lui aussi, en éveil aussi encore plus grand que ce qu'il est?
Bon, je ne pense pas qu'on puisse... Alors j'ai essayé de donner des informations simples sur les niveaux d'après, mais je ne pense pas qu'un humain puisse comprendre quoi que ce soit à un Bouddha. Déjà, des niveaux extraterrestres en 4-5 dimensions, on n'y comprend rien. Mais il y a une logique d'être l'univers en conscience et une logique de multi-émanation chez le Bouddha. C'est que je suis tous les individus en même temps, puis je vois ce que ça fait. Et cette idée derrière. En sachant que des fois, l'énergie du Bouddha, elle est là. Hein. Sauf que c'est le gars au coin de la rue, là, le mendiant au coin de la rue, là, qui fait la gueule et qui boit du whisky, puis c'est son énergie. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien d'autre à faire que de spiritualiser la matière. Donc il peut passer sa vie à boire dans un coin, ça ne pose aucun problème. Et il peut être bête, méchant et hargneux, c'est pas un souci. Hein. Donc faut pas croire, hein. C'est pas ceux qu'on croit qui sont forcément les plus élevés. Et à savoir que l'humain, si on parle de son principe énergétique et à quoi il sert, c'est une centrale de transformation énergétique. Par le cœur, on transforme toutes les énergies en n'importe quelle énergie. Et en réalité, chacun de nous sur la planète a pour utilité d'apporter une énergie pour la vie. Vous pouvez vivre votre vie comme vous voulez, c'est pas un problème. C'est de toute façon, tant qu'on est là, on apporte cette énergie, quand on meurt, il y en a un autre qui prend le relais.
Bon, vous avez beaucoup parlé de l'humain, ouais. Mais est-ce que je pourrais avoir des précisions sur l'environnement? C'est-à-dire que nous vivons dans un monde minéral, ouais. Végétal, animal. Mmh. De ce que je, de ma propre connaissance, parce que je n'ai pas appelé ça connaissance, les minéraux, les oiseaux, les arbres nous perçoivent parfaitement, ouais. Nous connaissent parfaitement et peuvent nous instruire dans le moment où nous pouvons nous mettre à leur, leur écoute.
Je vais être embêtant, mais je vais le dire au niveau de l'humain. Je vais d'abord juste expliquer pourquoi. Il n'existe que le monde dans lequel chacun est. Il n'existe pas de monde objectif en dehors de la vacuité. C'est-à-dire qu'en fait, il n'existe pas un monde extérieur à nous. Il n'existe que les petites expériences de chacun, c'est un peu de la physique quantique. Hein. Et les consciences interagissent entre elles, à leur niveau vibratoire. Donc l'expérience de l'arbre existe aussi. Hein. On ne va pas être humanocentriste, effectivement. Il y a toutes ces expériences qui existent d'esprit multidimensionnel, y compris végétal, animal. Qu'est-ce qui se passe, nous, quand on rencontre du minéral, on rencontre notre premier chakra. Végétal rencontre notre deuxième chakra, animal rencontre le troisième, l'humain rencontre notre cœur, l'angélique cinquième, etc. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est en fait, où qu'on regarde, on ne regarde que soi. Tous les végétaux, tous les animaux, tout le minéral est en nous. Quand je mange un animal, qu'est-ce que je fais? Je vais reconnecter ça. Et nous, on est obligé de le faire, parce qu'à notre niveau d'évolution, on est obligé de manger. Donc, quand je mange du canard, je connecte l'énergie du canard, qui correspond à quelque chose de précis. Pourquoi? Parce que l'expérience animale, moi, je l'ai déjà intégrée en tant qu'humain. Donc elle est là. Mais à un moment, on a été le canard, a priori. Peut-être pas en conscience, après ça c'est une autre paire de manches. Ça devient plus compliqué. J'essaie de dire simplement. Mais effectivement, tout. Voilà. Et qu'est-ce que c'est la fée, comme je disais, elle est peut-être en 7-8 dimensions, qu'est-ce qu'on peut y comprendre? Rien. Hein, voilà. Mais elle a aussi son expérience, elle modélise le monde différemment. Pourquoi? Parce que en fait, le monde, il n'a pas de forme à part la forme qu'on lui donne, nous, hein, tout simplement. Je crois qu'il y avait une dame derrière, peut-être, pardon, juste avant. Oui.
Moi, je me pose la question par rapport au fait que c'est vrai que les personnes sont évoluées très vite, notamment.
Ouais.
Et des fois, ce boulot, je me demande ce que je fais, quoi.
C'est normal, c'est le mental. C'est le mental qui évolue. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de vider toute notre dynastie, notre fonctionnement. Je ne vais pas rentrer dans cette explication en détail, hein, parce que là, j'ai déjà vraiment donné beaucoup d'infos. Un système d'égrégore, de dynastie, donc le nom de famille, qui se substitue à l'énergie ancestrale, donc les reins. L'énergie ancestrale, qu'est-ce que c'est son utilité? C'est quand on s'incarne chez l'humain, on arrive avec toute une histoire, c'est pratique. Dans la vie d'avant, vous étiez ailleurs. Hein, c'est pas, voilà. Et donc, il met des conditions à l'utilisation de cette énergie. Donc en fait, on est extrêmement dépendant d'un système dynastique médiéval, qui est toujours très présent, et dont on est en train de se débarrasser en ce moment. Donc c'est pas forcément bien vécu parce qu'il y a plein de repères qui sautent. Et à savoir, si on est en entreprise, c'est uniquement parce qu'on fait plaisir à papa. À un certain niveau, il y a que ça. Hein. C'est le patron, c'est papa, puis on est en entreprise, on lui fait plaisir. Si ça commence à sauter, qu'on retourne sur la fidélité à soi-même, ça marche plus très bien. Donc il y a plein de gens qui commencent à se retourner vers eux et dire « Mais qu'est-ce que je veux faire, moi ?» Voilà. Mais c'est pas forcément bien vécu au quotidien. Pourtant, c'est le quotidien qu'on vit maintenant. Hein. Enfin, on est en plein là-dedans. C'est pour ça. Oui, en fait, c'est une évolution. C'est d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis plus bien là où je suis, ça veut dire qu'il faut que je change d'état, que j'aille ailleurs. Mais alors qu'est-ce que je fais? Quand j'étais adolescent, normalement, j'aurais dû apprendre à faire des choix. Sauf que je ne l'ai pas fait, alors il faut que je le fasse maintenant. Voilà, j'ai 40 ans par exemple, ou peu importe, et je dois apprendre l'adolescent. Je dois dire, mais tiens, j'essaye ça pour voir, peut-être j'aurais dû faire menuisier, ou peut-être ça. Et bien, juste voir là où je suis heureux, là où je connecte mon soi, ce que je voulais être. Pas tous les petits mois, pas toutes les structures que j'ai mis autour. Mais concret, hein, c'est ça, les gens ils arrivent et puis il y a ça derrière. Donc voilà, donc en ce moment ça se vit doucement. Enfin, ça peut être vécu aussi de manière radicale, il peut y avoir des gens et ils ne reconnaissent plus le monde aussi, hein, le matin. Mais pourquoi? Parce que c'est ce qui donne sa forme au monde. Oui, après, bon, pas de quoi devenir dingo. Juste se laisser porter par l'expérience. Et après, toutes les thérapies aujourd'hui marchent très bien. Parce qu'on est à des niveaux plus hauts, parce qu'on a besoin d'un info, donc on l'a. Donc en fait, il y a plein de thérapies, il suffit de tester. Qu'est-ce qui vous convient? Pourquoi? Parce qu'on est tous différents. Et puis tester le thérapeute aussi. Le thérapeute est peut-être plus important encore que la thérapie. Parce que c'est une entente, hein, quand même, c'est un partage. Et donc, il y en a plein de techniques. Il suffit de trouver celle qu'on veut pour essayer de vivre bien cette transition. Voilà, cette idée. Voilà, si quelqu'un a une autre question. Oui, pardon, vas-y.
Et a priori, tout ça, ça serait situé où alors?
Tout ça quoi?
Tout ça, les Bouddhas, les anges, les autres.
Tout est là?
Ouais, d'accord, ok. Et en même temps, c'est où?
Bah, que là, parce qu'il n'y a que là. Le reste, t'es au cinéma. Quand t'es au cinéma, tu regardes un dessin animé, tu te dis, il est où, Albator? Ouais, à part la caméra et les filtres qu'il y a devant pour projeter le truc sur l'écran, parce qu'il y a ça, hein, c'est la clair-lumière, donc là, le centre, c'est que de la lumière. Donc s'il n'y a pas des couches par-dessus pour projeter des formes, il n'y a rien. Mais en fait, tout est là, tout est intégré dans le sans-forme. Hein, parce que tout existe dans l'instant présent. Qu'est-ce qui se passe? À chaque inspire, à chaque expire, les choix de toutes les parts relatives recréent le monde de A à Z. Donc tout est déjà fait et tout change tout le temps. Ça veut dire qu'en fait, oui, t'as un destin, oui, non, mais sauf qu'il change à tous les instants. Donc là, voilà. Donc tout est vrai en même temps, hein, c'est ça qui est très très trop bien. Si quelqu'un... Oui.
D'abord, tu renvoies vivre en faisant des héritages de l'ensoi. On va ranger tout ça, qu'est-ce qu'on va avoir?
Qu'est-ce qu'on va avoir? Le plaisir de l'expérience dans l'instant présent. Il n'y a que ça. Les buts, c'est le mental qui les invente, c'est les égrégores. Mais à un moment, ils disparaissent. Mais ça vit. À un moment, pourquoi on rentre dans cette expérience d'évolution? Généralement par l'ego, par la survie. C'est là où je suis pas bien, la société me déplaît, donc je me lance dans le spirituel parce que j'aime pas cette vie. Ou je veux du pouvoir. Ça aussi, c'est une porte d'entrée, hein, comme une autre. Voilà. Et on évolue comme ça. Mais il n'empêche que c'est qu'un jeu. Et que ce jeu, il est conçu pour que notre ego nous fasse courir après un but qui, en fait, nous fait évoluer. Et puis qu'en fait, au final, le remet à sa place. Et à un moment, on s'aperçoit que tout est là. Qu'est-ce qui est important? Ben rien, juste le plaisir de l'expérience, ici et maintenant. C'est très très dur à accepter pour l'ego. Mais à un moment, quand l'ego s'est remis à sa place, ça, c'est vraiment pas... Enfin, c'est une jouissance. Comme je dis, l'important, c'est quoi? Ben là. Voilà. Tu vois? Voilà, s'il y a d'autres questions... Oui.
Quand vous dites, au départ, vous avez dit que vous aviez plusieurs connexions simultanées, enfin une grande quantité de connexions.
Ouais.
En plus, ça, parce qu'il vous arrive de vivre plusieurs vies à la fois.
Oui, ça c'était mon problème au départ, et c'est comme ça que j'ai compris le problème des gens qui sont souvent passent par de l'autisme.
Dans une vie actuelle et une vie.
Il y a des espaces-temps mélangés. Si vous voulez, je détaille un peu, mais le mental, c'est ce qui rationalise le monde. C'est ce qui dit que le monde est logique. C'est que ça, hein. C'est que la structure mentale qui valide que le monde est logique. Au-dessus, il y a le... Bon, alors, je le perçois, mais on va dire le psychisme. Là-dedans, tous les espaces-temps, le temps n'est pas linéaire. Donc vous allez être connecté à plusieurs espaces-temps. Si ce système ne marche pas bien, vous pouvez vous retrouver à vivre sur plusieurs espaces-temps simultanés, mais pas consciemment, dans l'inconscient. Et là, c'est vraiment problématique, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est dit, je suis chez les chimpanzés, si ça va pas. Ben non, c'est juste qu'en fait... Il y a une part qui est une autre émanation qui est ailleurs, à un niveau beaucoup plus élevé, et c'est un peu pour eux, quoi. Ça se mélange. Donc il y a des informations qui disent, mais je comprends pas, moi, les gens, ils n'ont pas besoin de parler, leur énergie raconte leur vie. Ah oui, mais dans ce monde-là, oui, on est dans l'expérience où on parle. C'est plus tard l'expérience où on n'a plus besoin de parler. Mais voilà. Et la sexualité, ça n'a pas la tête. Non, mais c'est ça, hein. C'est mais on peut fusionner, pourquoi fusionner ou pas? C'est ça, pourtant. Je veux devenir l'autre, je veux devenir l'autre en partage. Ben oui, non, mais ça, non, là, t'es pas dans l'expérience humaine. Pourquoi? Ben parce qu'il y a ça. Et souvent, on va avoir des gens qui ont des grosses perceptions, une grosse souffrance de la vie. Ben, c'est des multi-émanations. C'est pas de bol. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs expériences qui se vivent en même temps et elles sont un peu poreuses. Voilà. Ça se répare. Alors, on rentre un peu ici et maintenant, c'est bien. Alors, quand je dis vraiment recentrer, je sais de quoi je parle. C'est un moment, ben, on travaille ça avec des. Il y a des lieux où il y a des énergies qui travaillent ça. Où ben, d'un coup, les perceptions deviennent vachement plus simples hein, quand on perçoit que comme ça l'espace-temps. Après, c'est multiple. Hein. Par exemple, je vous dis, on parle, puis il y a cette énergie au milieu, puis en même temps, il y a du sang formé avec des informations. Est-ce que j'ai envie de tout regarder? Non, mais elles sont là, les infos. À un moment, s'il y en a besoin, si ça peut aider, hein, il y a plein de choses à un moment que j'ai mis. Hein, parce que sinon, c'était... Voilà. C'est filtré. Hein. C'est juste, j'ai besoin d'infos, ok, je les donne. Mais, donc, c'est un sens inverse. Quoi, c'est... Et en même temps, on est là, et on peut être ailleurs en train de faire autre chose. Mais en même temps, tout le but du jeu, pour moi, c'est de dire, je ramène quand même le maximum de perception ici. Parce que sinon, je suis en train de fuir ailleurs encore. Hein. Je suis en train de fuir, tout simplement.
Tu parlais de situation où les deux, enfin, une double situation où les deux étaient très intéressants. C'est pas une question de fuite, c'est une question de connaissance dans un autre domaine.
Alors, si on le vit, c'est parce que c'est intéressant. Parce que l'information qui est donnée à un moment, parce que moi je suis allé regarder un peu ça m'intéresse, dire pourquoi est-ce que je me retrouve en multi-émanation? Ben parce que c'est ton jeu, tu as voulu jouer à ça. C'est-à-dire tu as voulu jouer à dire, je suis à un niveau, puis je perçois le niveau d'après, Et qu'est-ce qui se passe? Comment je vis ça? Est-ce qu'à un moment, je me révolte contre le niveau où je suis, je dis, ils sont tous fous, ils sont, c'est tous des chimpanzés, et puis je me mets à tuer tout le monde? Ou est-ce qu'à un moment, je fais le choix, un choix différent, je dis, bah tiens, si je leur expliquais un peu le niveau d'après, pour aider tout le monde à évoluer? Voilà, mais c'est qu'un jeu, hein, parce que ça sert à rien, c'est juste pour le plaisir de vivre l'expérience. D'accord? Il n'y a pas de sauveur, hein. La notion de sauveur, de victime, de bourreau, tout ça, vous la rencontrez sur la route, à un moment. Voilà. Pourquoi? Parce que quand vous percevez sur vous, vous percevez que l'autre, il fait déjà pareil que vous. C'est-à-dire qu'il est déjà dans ces perceptions-là, sauf que c'est masqué, c'est inconscient. Et s'il a choisi de ne pas le révéler, c'est qu'il a envie de s'amuser à ne pas le voir, hein, à un certain niveau. Alors c'est difficile, hein, de le dire comme ça, mais c'est ça qu'il y a derrière. Voilà. Bon, d'autres questions?
Oui, demain vous animez un atelier. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment va se dérouler cet atelier?
Alors, ce qu'on fait, en fait, on va travailler avec les nouvelles énergies. Le but, c'est de faire évoluer les gens qui sont là. Avec un système, c'est que de la pratique énergétique. C'est pas important que les gens aient des perceptions. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, moi, je pensais travailler qu'avec des gens qui ont des perceptions énergétiques. Alors, en fait, l'expérience prouve que c'est pas un problème. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, je vais faire une mise à niveau sur chaque personne pour faire modifier son énergie pour qu'elle rentre dans le groupe. C'est-à-dire qu'en fait, je vais aller. C'est pas moi qui décide. C'est la part absolue de la personne qui va me dire, voilà, cette personne essaie d'évoluer là-dessus, mais ça, il faut lui enlever, ça ira plus vite. Donc, on enlève ça. Je vous donne un peu pas ce qui se passe. Sauf qu'à un moment, au lieu d'essayer de manipuler l'énergie moi, on va passer par la vacuité. Je ne mets même plus une intention, je laisse les choses se faire à travers moi. Vous savez, bon, il y a une certaine puissance parce qu'on ne contrôle plus, donc à partir de là, ça se passe beaucoup mieux. Voilà, donc la personne va rentrer dans l'énergie du groupe, on va faire un groupe uniforme. Et après, c'est l'énergie du groupe qui va me dire ce qu'on fait. Donc, chaque personne à tour de rôle va guider. Idéalement, s'il fait beau, on va aller dans la forêt, hein, dans un coin pas trop loin. Chaque personne à tour de rôle guide. Et en fait, vous amène sur un lieu. Et après, on voit ce qui est connecté sur le lieu. Je peux travailler avec la personne en lui donnant l'information de ce qu'elle cherche à corriger, en fait, sur le lieu. Ou pas trop, suivant ce qu'elle peut entendre ou pas. Mais peu importe, on va quand même faire bouger cette énergie. Et du coup, tout le groupe se met à niveau derrière. C'est comme ça que ça marche à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un travail collectif et individuel en même temps. Puis on passe au suivant, et ainsi de suite. Et à la fin, vous allez voir qu'on a vachement évolué. Mais il n'empêche que, qui est-ce qui a fait le boulot? C'est le groupe. Et accessoirement, comme on est tous très différents, pourquoi est-ce que c'est une personne qui nous aide à résoudre ce problème? Parce qu'elle, elle peut aller le voir. On va travailler, par exemple, sur un problème d'ordre psychique. Psychotique, ça n'est pas en genre, mais psychique. Pourquoi? Parce qu'il y a une névrotique à tel endroit, ou qu'il y a un endroit où on ne peut pas le traiter autrement. La personne, elle a cheminé là-dessus, elle peut le traiter. Donc on traite sur elle, et derrière, les personnes qui n'avaient pas conscience de ce problème se mettent à niveau, parce qu'elles sont dans l'énergie du groupe. Mais ça marche comme ça à l'heure actuelle, les énergies de groupe. Donc c'est assez intéressant. Comme on va en forêt, on connecte des niveaux primaires. C'est-à-dire qu'on va aller corriger le bas, parce que personne ne veut corriger, entre guillemets, hein, je veux dire. C'est plus sympa d'aller voir les anges que d'aller voir tous les trucs en bas. Pourquoi? Parce qu'on perçoit des démons en bas au départ, parce qu'il y a une diabolisation de la matière dans notre société. Mais le divin, il est en bas, hein, aussi. Donc on va aller travailler avec ces énergies-là, et quel est l'effet? Ça dépend de la personne. L'idée, c'est de recentrer les gens vers le centre. C'est que ça, hein, le but. C'est de les aider à retrouver leur soi, donc qu'est-ce que je veux incarner, qui je suis, voilà. C'est cette idée, dans la mesure de ce que la personne peut faire. Voilà. Ça, je le fais depuis un moment avec des gens. Ça se passe très bien, ça peut être... C'est parce que, en fait, tout est spirituel de haut en bas, hein. C'est la vie elle-même, l'expérience d'évolution. Donc, on va corriger ça, et en fait, on va pouvoir travailler sur des choses très hautes ou très basses, et en fin de compte, on aura traité un problème qui peut être très matériel ou très spirituel au même endroit. Parce qu'en fait, en réalité, tout est spirituel, puisque tout est une expérience d'évolution. Voilà, donc c'est ça qui va se passer. Je fais beaucoup blabla, hein. Mais bon, je donne le minimum d'infos qui passent, et on fait bouger l'énergie. Ouais, vous le sentez, c'est bien, vous le sentez pas, c'est pas grave. Les gens, après, ils s'aperçoivent qu'il y a des choses qui changent. En gros, votre perception du monde risque de se modifier, mais c'est toujours fait en accord avec ce que vous voulez faire, en fait, à un niveau plus haut. Donc le but n'est pas d'amener des gens à faire un atelier préformaté, où tout le monde devient marteau à la fin, quoi. On part avec des contre-coups monumentaux. D'accord? C'est dans l'instant présent, ça va être le ressenti qui va dire ce sur quoi on travaille. Voilà. Donc c'est vraiment un travail concret. En fait. Et moi je travaille dans le groupe, hein, c'est-à-dire qu'en fait, le travail qui se fait, je l'ai en miroir sur moi. C'est comme ça que j'ai voulu, en fait, travailler avec les... Pourquoi? Parce que c'est... Solidarité, expérience humaine, c'est aujourd'hui, c'est ça qui fait évoluer. En tout cas, pour moi, c'est ce qui me fait le plus évoluer. Et en fait, donc du coup, je suis amené à faire ça. Mais... Voilà. Oui.
Quand il y a des équilibres psychiques, par exemple, je suis une
Ouais. Alors en fait, parce que tout a lieu en même temps. Donc qu'est-ce qu'on va trouver chez la personne? Ah ben, elle a un lien avec un descendant de 3000 ans. Et tous les choix qu'elle fait, ils sont reliés à ça. Dans le petit chiffre, il y a ça. Hein. Donc forcément, c'est psychotique. Ça se comporte comme si elle était 3000 ans dans le futur. Donc forcément, elle désigne un peu. Quoi. Donc qu'est-ce qu'on fait? On coupe ça. Tout se répond. Vous allez trouver le que vous cherchiez dans l'enfance de la personne ou que vous cherchiez dans un autre espace-temps, vous allez trouver la même chose parce que tout se répond. L'univers est parfait en résonance. Obligatoirement. Mais c'est pas moi avec mon mental, je ne peux pas trouver ça. C'est je me laisse guider. Et l'information, elle est là, elle est sans forme parce qu'elle est incompréhensible hein, dans le psychisme. Donc on est obligé de rester au niveau du sans forme. Par contre, quand on est dans du psychotique, on n'est pas dans quelque chose qui est rationnel. Donc c'est... Mais en même temps, tout se répond. Donc vous allez retrouver effectivement des choses dans l'enfance. Et qu'on travaille sur le corps ou qu'on travaille tout en haut, ça se manipule tout pareil. Hein. C'est pas... Voilà. Une question ? On évolue comme les bébés. C'est-à-dire qu'un bébé, quand il a 6 mois, il y en a, il sort ses dents, il y en a, il rentre, il y en a, il parle. On a pas, c'est un photo, mais il me commence à babiller. L'humain, il évolue spirituellement pareil. Il y en a d'un coup, pour une raison X ou Y, d'un coup, ils évoluent. Eux, ils marchent. Lui, il parle. Ben, moi, d'un coup, j'ai plein d'infos. Ben, je parle. Par contre, pour ce qui est dans la matière, ça ne va pas forcément. Je ne me nourris pas de prana. Voilà. Mais ben, il y en a un, d'un coup, il se nourrit de prana. Pourquoi? Ben, parce que c'est le bébé, il a sorti une dent. Mais ça ne veut pas dire qu'à la fin, tout le monde n'aura pas toutes les dents, tout le monde marchera, tout le monde parlera. Mais c'est juste que bah, c'est comme un bébé, on évolue comme ça. Donc il y a effectivement des gens qui peuvent se nourrir de prana. Parce qu'ils ont dépassé plein de logiques qui sont cachées derrière. S'ils n'ont plus besoin d'aller connecter les niveaux minéraux, végétaux, animaux en passant par la matière, parce qu'ils ont résolu entre autres leur propre cruauté. Il y a une logique de cruauté hein, dans la nourriture qu'il faut aller résoudre. Elle n'est pas simple à résoudre. Hein, sinon, j'aurais résolu. C'est pas simple. Et là, on est vraiment sur le bas. Il y a une logique de cruauté, il y a beaucoup de choses qu'il faut avoir envie d'aller regarder ça quand même. Hein. Donc des fois l'information c'est bouffe ton saucisson, tais-toi. C'est plus simple. Tu dis, mais j'ai... qu'est-ce qui se passe si j'en mange pas? Bah tu préfères pas le savoir, d'accord. Alors moi je pose plus de questions maintenant, parce que j'ai eu quelques trucs où tu les encadrais. Voilà. Donc il y a ça, effectivement il y a des gens, bah, ils commencent par dépasser ça, donc ils sont comme ça. Il y en a d'autres, bah, ils sont clairvoyants, d'autres clairvoyants, d'autres bah, ils font des choses avec leur corps, d'autres... C'est normal, on est des bébés et tout le monde grandit à sa manière. Voilà, c'est tout. D'autres questions? Bon. Voilà, donc, ben. Voilà, bon, ben, désolé pour la lobotomie quand même, parce que j'en dis beaucoup. Mais je voulais quand même au moins préciser toutes ces choses-là. Voilà, pour recadrer un petit peu. C'est, alors, bien évidemment, c'est pas un dogme, hein, c'est mon expérience. Et ma perception du monde qui me font dire ça. Après, chacun le vit comme il veut, et puis. Voilà. Donc voilà, donc mon livre, dans mon livre, qu'est-ce que je fais? Ben, je décris au jour le jour, en fait, toutes mes expériences. Parce que justement, je voulais pas faire ce que je fais là, au départ, donner des infos pour pas que derrière, ça fasse des dogmes. Donc, qu'il y a un gars qui arrive et qui me dit, mais vous dites à tel endroit que, cette idée derrière, pas dire ça, la vérité, c'est ça, puis pas autre chose, alors que c'est pas vrai. Donc, c'est juste une retranscription de mes étapes d'évolution. Voilà. Je l'ai fait sur mon blog, en fait, hein, en ligne. Et puis bon, ben, ça fait un livre, voilà. Il y a le deuxième qui sort dans le... Je l'ai su la semaine dernière, là, j'ai reçu un carton lundi. Voilà. Donc en fait, dans le premier, c'est dans les étapes du blog, c'est l'étape où je décris l'éveil de Kundalini et ce qu'on a fait au départ, puis mes premières expériences avec les esprits de communication. Voilà. Et dans le deuxième, c'est un détail de la montée dans le monde spirituel, jusqu'à la vacuité, en fait, la limite. Et qu'est-ce qu'on trouve comme écueil, entre autres la forme, qui piège beaucoup de gens dans le monde spirituel, qui finissent bloqués par saint machin, saint truc, oui, sauf que tu es dans une forme. Donc en fait, tu es sur une armure spirituelle. C'est quand tu as trouvé la vacuité que tu as dépassé ces niveaux. Donc en fait, voilà, un petit peu détaille tous les pièges aussi, le guerrier, le sauveur. Au départ, donc il y a des discussions avec tout son esprit, des démons, pour comprendre à quoi ça correspond, à quoi ils servent et pourquoi. Voilà, en sachant comment on réintègre ces énergies en positif, hein, simplement en comprenant que c'est nous qui leur donnons cette forme. Voilà. Bon, enfin, il y a plein de choses comme ça, en deuxième. Voilà. Et après, bah, sur le blog, il y a plein de trucs encore. Et puis, j'aurai encore des choses à dire sur la matière. Mais bon. Voilà. Oui. Ouais.
Dans ce cas-là, est-ce que vous êtes recadré par autre chose ou par une partie que vous mettez dans le...
C'est ce que je dis, c'est un peu difficile parce qu'on a à la fois la part qui... la part absolue, la part relative. C'est suivant les moments de l'expérience. On sait très bien quand on se fait recadrer, c'est qu'on se retrouve dans son petit ego, dans son petit corps. D'un coup, les perceptions, c'est de la mélasse. D'un coup, ça crame de partout, c'est l'horreur. Bah ouais, j'essaie de contrôler quelque chose en réalité. Donc c'est très vite vu. Hein. Dès qu'on laisse, on lâche cette prise-là et on laisse faire l'absolu, tout se met à sa place instantanément. Mais ça, c'est une expérience, c'est pareil, ça se vit. À un moment, l'ego lâche prise là-dessus.